Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. La France à l'épreuve du changement climatique, ses feux à répétition et pour beaucoup anormalement puissants. Nous allons en parler durant nos différents journaux. Les feux, mais aussi les canicules sont appelés à se répéter. Et cela pose plusieurs questions. On va s'en poser une ce soir. Faut-il adapter le droit du travail aux vagues de chaleur? Un avocat nous répond vers 19h30. Et puis, nous évoquerons aussi les adieux prochains de la reine Serena Williams. Près de 25 ans de carrière sur les courts de tennis a concassé ses adversaires. Beaucoup de choses à raconter. Deux experts seront là. Ça sera vers 18h15. L'un des nôtres, Jean-François Pérez, il a vu les débuts de l'américaine. Un autre, Frédéric Verdier, un livre d'histoire du tennis à lui tout seul. Prenez vos stylos, il y aura de l'anecdote. Europe 1, il est 18h. Voici un premier journal avec évidemment à la une ces feux en Gironde. La France est dépassée, reçoit de l'aide de l'Europe. Des pompiers en renfort et des avions de lutte contre les incendies. Reportage dans le brasier, toujours en cours, près de Landiras. La sécheresse et ses conséquences, la production de lait déjà en difficulté pourrait encore ralentir. Le prix du lait devrait de fait grimper à la rentrée. Et puis enfin, un vaccin anti-Covid plus ciblé contre les variants arrive prochainement. Il est développé par Pfizer. Yasmina Katou nous en parlera tout à l'heure. La tendance météo. Bonsoir Valérie Darmon.
Bonsoir Raphaël. Eh bien, une journée très chaude à venir et des maximales encore jusqu'à 40 à Mont-de-Marsan demain. 19 départements sont en alerte canicule. La Haute-Vienne vient de passer en orange.
C'est bien noté. Météo complète à la fin du journal.
Europe 1.
Des pompiers venus d'Allemagne, de Pologne, d'Autriche ou encore de Roumanie sont en route vers la France. 4 avions de la flotte européenne de lutte contre les incendies également mobilisés pour tenter d'éteindre les feux en Gironde. Situation toujours difficile vers Landiras où Elisabeth Borne, la première ministre, est venue ce matin pour afficher son soutien aux populations, mais également aux sapeurs-pompiers. Ces feux puissants et voraces ont ravagé près de 7000 hectares en 3 jours autour de la petite commune de Belin-Beliet. Guillaume Dominguez s'est rendu auprès des quelques 1000 pompiers mobilisés. Leur travail est extrêmement difficile car la sécheresse ambiante favorise les fumerolles, les incendies souterrains.
Le long de la départementale 3, les fumerolles se multiplient. Ces brasiers souterrains se traduisent en surface par de petites colonnes de fumée. Plus loin, l'un d'eux vient d'embraser plusieurs pins et un parterre de fougères. C'est un départ de feu. Le lieutenant-colonel Arnaud Mandous donne immédiatement l'alerte.
La première des choses, c'est d'identifier la reprise de feu. Ensuite, nous, on va dépêcher un engin le plus rapidement possible. Et puis, cet engin va traiter la reprise de feu. Alors là, vous voyez, on n'est pas avec un engin typique feu de forêt. On est avec un engin avec lequel habituellement on fait plutôt des feux de maison, des feux urbains. Là, il était prépositionné en défense de points sensibles un peu plus loin. Il était disponible. On l'a dépêché immédiatement sur le secteur.
Ce nouveau foyer est rapidement fixé, mais il faut rester prudent. Les départs comme celui-là sont nombreux cet après-midi à cause de la tourbe qui brûle en sous-sol. Un combat compliqué pour les hommes du commandant Bruno de Tappe du 10 de la Vienne.
C'est très difficile à gérer parce que c'est en sous-sol, ça part en sous-sol. Donc il faut noyer pour éviter que ça se propage dans la terre.
Un chantier d'autant plus long que les pompiers ne peuvent pas compter sur les canadairs cet après-midi. Un phénomène météo bloque les fumées au sol et empêche les avions de cibler précisément les zones de feu. Belin-Bélier, Guillaume Dominguez, Europe 1.
Et à ce jour, on compte au moins 56 500 hectares de forêts brûlées dans toute la France après cet été historiquement chaud et sec. Alors en Gironde, ce type de feu n'est pas inédit. Il y en a eu un terrible en 1949. En revanche, dans le Jura, c'est quand même beaucoup moins habituel. 400 hectares brûlés depuis mardi là-bas. L'un des deux feux en cours, assez impressionnant, s'approche de la commune de Cernon. Un hameau a été évacué. Bernard Rude est le maire de la ville, ancien pompier. Il n'a jamais vu ça.
On n'a jamais connu ça, hein. Sous cette ampleur, je ne sais pas en superficie ce que ça peut représenter, mais c'est énorme, énorme. J'en ai déjà vu, mais là, c'était quelque chose. C'était pas des petits feux. Personnellement, j'avais des chevaux à évacuer. J'étais assez loin du feu, mais la chaleur, on la sentait, hein. C'est quelque chose d'assez violent. Il y a que des dégâts forestiers. Les maisons étaient préservées. À l'instant, le feu est passé au ras de la commune de Cernon, frôlant des fermes. C'était assez chaud. C'était quelque chose d'assez violent, on va dire.
Bernard Rude, maire de la ville de Cernon dans le Jura, ville menacée par un nouvel incendie de forêt. Il répondait aux questions de Solène Leroux. Et puis ailleurs en Europe, des gigafeux aussi au Portugal. 10 000 hectares calcinés dans le centre du pays, soit 10% du géoparc de Serra da Estrela. C'est un géoparc classé à l'UNESCO. 1500 pompiers portugais sont à l'œuvre. Des feux attisés par la sécheresse, conséquences immédiates, des conséquences à retardement à prévoir également dans nos assiettes et nos porte-monnaies. La production de lait est fragilisée. La brique risque d'être rare et donc de coûter plus cher ces prochaines semaines. Margot Faudéré en a parlé avec un exploitant inquiet de la Sarthe.
Il n'y a même pas d'épis.
Des épis de maïs, Guilain de Viron a bien du mal à en trouver dans ses champs ravagés par la sécheresse. Des tonnes de cultures mortes, quasiment inutilisables pour nourrir les vaches de cet éleveur laitier.
Là, il nous reste du maïs de l'an passé. Pendant 3 mois, on va maintenir une quantité de lait à peu près normale. Quand on va arriver dans les récoltes de 2022, on sait que ça va être catastrophique.
Chaque année, 1 million de litres de lait sont produits dans cette ferme de la Sarthe, un objectif inatteignable aujourd'hui.
Une vache qui mange moins ou qui mange de moins bonne qualité, elle donnera moins de lait et du lait moins riche, tant en matière grasse qu'en protéines.
Dehors des prairies vides, les vaches sont allongées sous les hangars, abattues par la chaleur. Alors Guilain trouve des solutions pour les garder au frais, un système qui coûte cher.
On va démarrer l'arrosage, on voit un tuyau là qui passe au-dessus des vaches. Ça permet de maintenir une température pas trop élevée. C'est de l'eau qu'il faut qu'on paye. Et puis, vous voyez, ce sont des gros ventilateurs, ça consomme aussi beaucoup d'électricité.
Une eau plus rare, une électricité plus chère et moins de production. Si le prix du lait n'augmente pas, Guilain craint une pénurie encore plus sévère.
On va décourager les éleveurs laitiers qui sont déjà plus très nombreux. Ils vont préférer vendre les vaches, donc il n'y aura pas de lait.
Sur les 6 premiers mois de l'année, la production de lait en France a déjà diminué de 1,4%.
Reportage signé Margot Faudéré dans la Sarthe. Nos agriculteurs en première ligne du dérèglement climatique. Nouvel indicateur d'un bouleversement de notre biodiversité. Ces 40 dernières années, l'Arctique se réchauffe 4 fois plus vite que le reste de la Terre. C'est ce qu'affirme une prestigieuse revue scientifique du groupe Nature. À retenir en plus bref, à quelques heures d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis plaident pour une zone démilitarisée autour de Zaporijja. De nouvelles frappes signalées près de la plus grande centrale nucléaire d'Ukraine, Moscou et Kiev, comme lors de ces derniers jours, s'accusent mutuellement. L'Ukraine parle notamment de frappes russes ayant endommagé des capteurs de radiation. Et puis au Liban, un homme armé retenait des employés d'une banque de Beyrouth cet après-midi. Il exige le retrait de son épargne, 200 000 dollars. Nouvel épisode d'un pays ravagé par la crise économique. Les autorités de la capitale libanaise ont installé un cordon de sécurité. Restez avec nous dans quelques instants. La suite du journal avec l'arrivée d'une nouvelle génération de vaccins anti-Covid. Ils ciblent spécifiquement les sous-variants d'Omicron. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Nous en parlons moins car ça va mieux. L'épidémie de Covid recule ces dernières semaines en France. 27 000 nouveaux cas hier, un tiers de moins qu'il y a une semaine. Mais on y est habitué maintenant avec les nombreux variants. L'épidémie peut repartir à tout moment. Bonsoir Yasmina Katou.
Bonsoir.
Un nouveau vaccin spécifiquement conçu pour les souches BA4 et BA5 arrive très prochainement.
Oui, et c'est le laboratoire Pfizer qui a créé ce vaccin adapté aux sous-variants d'Omicron BA4 et BA5. Alors même s'ils sont jugés moins dangereux que les souches précédentes, ces variants se transmettent beaucoup plus facilement et cela entraîne une saturation des hôpitaux. Il s'agirait donc d'éviter cela pour les prochaines vagues. D'ailleurs, l'Agence européenne du médicament vise une autorisation de ce nouveau sérum d'ici l'automne, période où il devrait y avoir un nouveau pic de contamination. Alors avant le vaccin contre BA4 et BA5, les autorités devraient approuver 2 nouveaux vaccins courant septembre. Pfizer et Moderna ont développé un sérum avec la souche de Covid originale et le premier sous-variant d'Omicron, le BA1. Enfin, pour compléter la gamme de vaccins proposés, le ministère de la Santé confirmait le mois dernier l'arrivée d'un vaccin français, Sanofi, et un autre du laboratoire espagnol IPRA. Tous les deux seraient utilisés en dose de rappel, mais pour l'instant, aucune date de mise sur le marché n'a été communiquée.
Merci Yasmina Katou du service santé d'Europe 1. Le sport et une première médaille pour la France au championnat d'Europe de natation à Rome en Italie. Elle est en bronze pour les Françaises après l'épreuve technique de natation synchronisée. Peut-être d'autres médailles ce soir. Les 2 relais tricolores féminins et masculins se sont qualifiés pour les finales du 4x200 mètres nage libre. Les finales ont lieu En soirée, ces épreuves de natation ont lieu au Foro Italico où Serena Williams ne devrait plus revenir pour le traditionnel tournoi de tennis préparatoire à Roland-Garros. L'Américaine, 40 ans, annonce cette semaine sa retraite imminente, probablement après l'US Open. Nous allons en parler avec deux spécialistes dans quelques instants. Mais avant, difficile de ne pas relever le caractère inspirant de Serena Williams. Marie Jiquel, son style, son histoire ont inspiré les arts, la musique ou encore le cinéma.
Bien sûr, il y a d'abord ce rappeur-acteur Will Smith qui a interprété son père au cinéma l'année dernière dans La Méthode Williams.
Regardez-les faire quelques balles.
D'accord. Vous vous appelez comment déjà ?
Moi, c'est Venus.
Et moi, Serena.
Mais Serena Williams et son jeu puissant ont été plus vantés par chanson qu'au cinéma. L'artiste canadien Drake explique dans Worst Behavior qu'il ne pourrait battre Serena que si la droitière joue de la main gauche. Sa force est célébrée aussi dans la chanson Serena Williams de l'américain Derek Pop. Autre hommage provenant du rappeur américain The Game, dans sa chanson Dreams, il évoque les trois sœurs Williams, Vénus, Serena et leur sœur Yetunde, tuées dans une fusillade entre gangs rivaux. This song is dedicated to Yetunde Price, the sister of Venus and Serena Williams who was slain. Enfin, l'athlète fan de hip-hop pourrait-elle aussi se tourner vers la production musicale? Elle s'y était déjà frottée il y a 10 ans avec ce son confidentiel où elle délaisse la raquette pour des lunettes de soleil Gucci. I ball hard, no tennis racket. I can see
these haters through my Gucci glasses. I make hits like Serena Williams, la légende et l'inspirante. Merci Marie Jiquel du service culture d'Europe 1, la météo.
À la plage ou au bureau, retrouvez la météo. Avec les 250 hôtels Kyriad, partez à la découverte de nos régions sur kyriad.com.
On vous retrouve Valérie Darmon, pas un temps à jouer au tennis. Demain, soleil brûlant à nouveau.
Oui, mais apporter des lunettes de soleil, hein, comme Serena Williams. Alors effectivement, les minimales sont élevées dans le sud, avec pas moins de 19 à 24 degrés. Sur le nord, on attend entre 11 et 16, 17 à 20 par endroit. Le mercure affiche une fois de plus des maximales très chaudes, avec 32 à 39 de la Bretagne à la vallée de la Garonne, où les 41 seront possibles par endroit. Il fait moins chaud sur la côte atlantique. On attend 29 à 35 des côtes de la Manche au nord-est, 30 à 38 ailleurs sur la façade est. Du côté du ciel, vous connaissez toujours quelques nuages bas sur le littoral aquitain et autour du golfe du Lion. De nouvelles averses orageuses qui se développent sur les massifs des Pyrénées, des Alpes du Sud et sur le relief Corse et sur le reste de la France. Dans une atmosphère absolument étouffante, le soleil va briller toute la journée.
Merci Valérie, on se retrouve vers 19h pour une nouvelle météo sur Europe 1.
Europe 1. Le choix de Mola.
Notre chronique littéraire de l'été à présent avec Stéphane Place et notre librairie partenaire Mola à Bordeaux. Coup de projecteur sur un comédien que nous avons tous vu sur grand écran, Sam Shepard. Un livre de Rodolphe Barry lui est dédié, La lune tatouée sur la main gauche. La lune tatouée sur la main gauche, Stéphane.
Oui, une gueule de cinéma que vous avez forcément en tête si vous avez vu l'étoffe des héros, film cultissime sur l'épopée spatiale américaine. Eh bien, dans ce film, Sam Shepard, c'est ce pilote d'essai qui est le premier aviateur à avoir franchi le mur du son en 1947. Grand type, au regard d'acier. Voilà pour l'image qui vient à l'esprit quand on entend Sam Shepard, acteur. Mais ce n'est pas devant les caméras que Shepard fut heureux. Lui tournait des films pour gagner de l'argent, nourrir ses chevaux et écrire. Car Shepard fut un écrivain, un dramaturge qui a renouvelé en profondeur le théâtre américain. Et c'est cette trajectoire que raconte ce livre de Rodolphe Barry, Une lune tatouée sur la main gauche. Pierre Coutel, libraire chez Mola.
Pour les Américains, c'est une figure assez incroyable parce qu'à la fois, il a fini sa vie en jouant souvent dans des séries, mais c'est probablement l'un des dramaturges américains les plus joués aux États-Unis. Et c'est surtout une figure qui a traversé toute la contre-culture américaine depuis les années 60 jusqu'à sa disparition en 2017. C'est une bio, mais c'est aussi la biographie d'une obsession, qui est l'obsession de Rodolphe Barry pour ce personnage-là, qui le fascine complètement. C'est quelqu'un qui est à la fois dans l'underground la plupart du temps, vivant dans une espèce de ranch abandonné et en même temps tout à fait à l'aise sur les plateaux hollywoodiens. Et c'est aussi l'obsession donc, de cet écrivain Rodolphe Barry qui va chercher à le rencontrer, réussir à le rencontrer.
Et dans un style comme toujours très personnel, Rodolphe Barry se met en scène lui-même dans cette rencontre avec Sam Shepard, auquel le romancier français voue une admiration sans borne depuis longtemps.
À l'adolescence, j'ai lu un de ses livres, un de ses premiers livres traduits qui s'appelait Motel Chronicles. Et là, j'ai rencontré un écrivain, j'ai rencontré une conception de l'écriture et j'ai voulu aller voir derrière cette écriture quel homme se trouvait. J'ai découvert que la vie de Sam Shepard n'était pas du tout celle qu'on croyait. Le cinéma ne représentait pas un instrument de connaissance. L'écriture était pour lui quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus profond. Mais il a écrit, oui, 50 pièces. Hein. Je sais pas, le dramaturge américain le plus joué dans le monde. On dit ça aux Français, ah bon ? Ces pièces sont jouées en continu à New York dans tous les grands théâtres américains, mais pas une, hein, une dizaine de pièces par les plus grands acteurs américains. Sean Penn, Val Kilmer, Ed Harris, tous les grands acteurs qu'on connaît aujourd'hui ont joué Shepard ou continuent à jouer Shepard. Pour les Américains, il est d'abord un dramaturge, d'abord un écrivain.
Le succès, la notoriété, je n'ai jamais été dupe. De toute façon, il n'y a pas de type plus grand que les autres. Chacun est important s'il a cet influx qui le pousse à dire quelque chose de personnel, de vital, balance à son intervieweur Shepard dans ce livre qui raconte un homme entier, magnétique, se tenant le plus loin possible des paillettes.
C'est bien noté, Stéphane Place, La lune tatouée sur la main gauche, aux éditions Finitude, livre qui a d'ailleurs été récompensé du prix du réel 2022 dans la catégorie littérature. Restez avec nous sur Europe 1 dans quelques instants. Nous reparlons de Serena Williams qui s'apprête à faire ses adieux à la planète tennis. Serena Williams, pour vous dire les choses très simplement, c'est un pan de l'histoire qui va s'en aller. On vous en dit un peu plus avec deux experts. Restez avec nous sur Europe.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Ce cri, vous ne l'entendrez plus. Ça n'est que lorsque les légendes s'en vont qu'on mesure ce qu'elles sont. Serena Williams s'apprête à ranger les raquettes après presque un quart de siècle de carrière et 23 titres du Grand Chelem en simple dans son étagère. Nous en parlons avec deux spécialistes, deux experts du tennis. Frédéric Verdier, que vous connaissez peut-être, il a bercé vos soirées à Roland-Garros sur Amazon Prime. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Raphaël.
Et avec nous également le chef du service des sports d'Europe 1, Jean-François Pérez. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir à tous.
Alors j'allais dire que vous avez vu naître Serena, vous l'avez suivi dès ses débuts, c'est ça que je voulais dire.
Ouais, c'était étonnant, c'était au milieu, on va dire, des années 90. Et étonnamment, ce n'est pas elle qui a éclos en premier, mais c'est sa sœur aînée. Vénus, on se souvient beaucoup plus de Serena maintenant, mais c'est Vénus qui a percé en premier. Et je me souviens que quand elle a commencé à devenir une joueuse importante, Vénus Williams, tout le monde était totalement ébaudi par rapport à son talent, sa force, sa vitesse. On avait l'impression vraiment de voir le prototype de la joueuse qui allait dominer les 15-20 années suivantes. Et puis, elle avait eu, je pense que Frédéric s'en souvient, elle avait eu cette phrase étonnante. Elle avait dit, mais ok, sans doute, je suis peut-être très forte, mais vous allez voir, ma sœur, elle est 10 fois plus forte que moi. Et c'est elle qui va tout gagner.
Mais c'est énorme, parce que Jean-François, en effet, non seulement je m'en souviens, mais je me souviens même de ma réaction, qui est donc aujourd'hui lamentable, puisque quand j'entends Vénus dire ça, je me dis, mais oui, c'est ça. Elle dit qu'elle Exactement. A une petite sœur qui est encore meilleure qu'elle, on connaît ça par cœur, ça s'appelle le melon, ouais. Ça marchera jamais. Eh bien si.
Ça a marché, vrai. Et Serena Williams est arrivée comme une bombe. Franchement, c'était incroyable. En quelques mois, on s'est tous dit, ah oui, en effet, Vénus avait vu juste. Serena, c'est vraiment autre chose parce qu'il y avait un poids dans la balle, il y avait une implication personnelle dans chaque point, il y avait une rage de vaincre qu'on n'avait quasiment jamais vue dans le tennis et qui s'est vérifiée ensuite. Donc voilà comment, à la fin des années 90, alors que sa sœur était programmée, j'allais dire, par leur papa pour dominer le tennis pendant quelques années, la cadette est venue bouleverser tout en quelques mois, a vraiment fracassé le jeu de quilles, quoi, et s'est installée au sommet du tennis mondial.
Voilà, le début professionnel de Serena Williams, ça remonte en
94.
1995 ouais. Au tournoi de Québec. Frédéric Verdier me fait les gros yeux, mais c'est ça, non?
Pas du tout, non, tout à fait vrai.
1995, j'avais 5 ans à titre personnel. Iga Swiatek, l'actuelle numéro 1 mondiale, avait moins 6 ans. Elle est née en 2001. Serena Williams a affronté des joueuses comme Monica Seles, Steffi Graf, Martina Hingis, Amélie Mauresmo, Mary Pierce, Kim Clijsters, Justine Henin, Maria Sharapova, Simona Halep, et puis plus récemment, Iga Swiatek. Vous avez souvent le mot juste, vous qui êtes commentateur, vous faites beaucoup de directs. J'ai un peu la pression avant de vous poser cette question, mais c'est un peu un pan de l'histoire du
Raphaël,
tennis qui s'en va.
Raphaël adore le tennis.
Oh c'est, ça, quand même. C'est un peu un pan de l'histoire du tennis qui va s'en aller.
Totalement un pan de l'histoire qui nous quitte, parce que d'abord, elle a réinventé un peu ce sport-là. Jean-François en a parlé déjà. Mais j'ajouterais déjà sur le plan du jeu, c'est-à-dire qu'elle a quasiment inventé avec sa sœur, ou en tout cas systématisé, les appuis ouverts. Avant, techniquement, quand on jouait, quand on apprenait le tennis, même dans nos clubs, on apprenait en appui en ligne. On mettait le pied l'un après l'autre, comme ça, on frappe. On était deux profils, avec l'épaule face au filet, et on frappe. Elles ont joué les deux jambes vraiment face au filet, en tournant les hanches et les épaules, et en frappant, ce qui donne une puissance plus importante. Après, il faut être très rigoureux, il faut bien aussi se placer bien accompagné. Mais je veux dire, ça a été vraiment une révolution pour ça. Et après, toutes les filles derrière les ont copiées.
Un tennis très physique, très brutal, Serena Williams. Hein. C'est pas très esthétique.
Alors, ce qui est très fort, c'est comme toutes les grandes championnes et comme tous les grands champions qu'on voit avec Federer, Djokovic et Nadal dans le circuit masculin, elle a fait évoluer son jeu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être au sommet pendant 20 ans quasiment sans changer quoi que ce soit. C'est vrai que ça a été la plus puissante. Sur le plan physique, c'est absolument indéniable. Il n'y avait plus véloce qu'elle, comme Justine Hénin ou Kim Clijsters, par exemple. Il y avait aussi plus endurante qu'elle, comme les Russes, Dementieva, Miskina, et on peut en citer d'autres plus proches de nous, comme Simona Halep. Mais qui arrivait à faire vraiment coïncider toutes ces qualités-là, la puissance, la vélocité, la rapidité et l'endurance. Serena était vraiment ultime pour ça. C'était une championne absolument hors norme pour ça.
Jean-François Pérez, l'une des rares joueuses à dépasser les 200 km/h au service, Serena Williams. Hein.
Oui, alors c'est vrai que c'est tentant de ramener Serena Williams à sa puissance, parce que c'est vrai, c'est le cas, elle a souvent écrasé ses adversaires de ce point de vue-là, mais il y avait toutes ses qualités aussi, voilà, c'est pas un hasard, ça suffit pas la puissance. Hein. Sinon, je ne sais pas moi, Aravane Rezaï, qui a été une joueuse française il y a une dizaine, quinzaine d'années, aurait été numéro un mondial pendant plusieurs saisons, ce qui n'a pas été le cas. Là, la puissance, ça sert évidemment au moment important, mais Serena Williams, c'était aussi, par exemple, une couverture de terrain incroyable. Alors qu'elle donnait souvent l'impression de jouer au pas, on ne retiendra pas ses sprints, Serena Williams, hein, mais elle avait une espèce de troisième œil d'anticipation qui était folle, quoi, et on se demandait comment on pouvait faire pour la déborder. C'était impressionnant. Franchement, c'est l'une des joueuses. Moi, je ne suis pas méga fan non plus de son style. Je préférais Martina Hingis ou Steffi Graf, par exemple, ou Amélie Mauresmo. Mais franchement, c'était quelque chose d'unique. Et je pense qu'on ne reverra plus de sitôt une joueuse aussi marquante en termes de révolution dans le jeu, dans le style. Et puis, on peut aussi parler de sa personnalité.
Hein. Alors, il y a un peu de suspense, mais très peu. Hein. Elle n'a pas expliqué clairement quand est-ce qu'elle s'arrêterait, mais on a tous compris que ce serait probablement après l'US Open, que vous commenterez d'ailleurs chez nos confrères d'Eurosport, Frédéric Verdier.
En effet.
Le cours Arthur Ashe sera plein.
Oui, c'est évident, ça sera en session de nuit.
Mais c'est rare.
C'est rare, c'est vrai. A fortiori pour le tennis féminin, parce qu'il y a quand même un distinguo là-bas sur certaines affiches féminines et certaines affiches masculines. La Serena abolit complètement cette distinction. Et les billets, déjà depuis l'annonce qu'elle a pu faire, les billets se sont envolés d'une manière totalement exponentielle. Les gens aux États-Unis veulent absolument leur ticket pour voir Serena. Ils ne savent pas quand elle sera programmée, mais ce n'est pas grave.
Voilà, Serena Williams qui a aussi une vie absolument incroyable. Elle a échappé à la mort, à une embolie pulmonaire.
Ouais. Oui, elle a vraiment repoussé les limites dans plein de domaines. Je me souviens même de Grand Chelem qu'elle arrive à gagner en étant totalement hors de forme physiquement. Il y avait Roland Garros, il y a de ça 7 ans. Elle était sous antibiotiques contre la Suissesse Bachinski en demi-finale. Elle dort littéralement sur son sac au changement de côté. Elle gagne. En finale, elle gagne contre Safarova aussi. Incroyable. En 2007, elle est pareille. Elle arrive totalement hors de forme. Elle est non classée. En tout cas, elle est au-delà du top 100. Et elle marche littéralement sur Sharapova en finale. Elle lui met 1 et 2 en étant la reine. Et ça a toujours été des départs de points. Jean-François a parlé de son service. On peut citer aussi son retour de service. Elle a littéralement, en deux coups de cuillère à peau, sur chaque point, mis le maximum parce qu'elle savait qu'elle n'avait aucune autonomie physique. Donc, elle a tout mis sur les départs de points avec cette concentration, cette détermination qui a toujours été la sienne. Et ça a fait un résultat absolument étonnant parce que Sharapova était à l'époque vraiment une de ses grandes rivales.
La puissance, la résilience, c'est très important aussi hein, au tennis.
Oui, c'est quelqu'un évidemment qui a un parcours particulier. Il y a une espèce de double rage permanente, celle de sortir d'un quartier, une espèce de semi-ghetto de Los Angeles qui est Compton. De se dire aussi qu'elle a eu un entourage familial et un père qui était quand même assez tyrannique, qui poussait vraiment ses filles à jouer au tennis tout le temps. Voilà, donc Richard Williams, c'est un personnage central là-dedans. Il a créé aussi, entre guillemets, ce monstre de tennis qui est devenu Serena Williams. Donc elle joue avec tout ça. Je pense qu'elle avait pas mal de défis intérieurs. Une espèce de vengeance tout le temps. Elle traînait ça avec elle et elle était... elle était inarrêtable. 90% de sa carrière, c'est une joueuse contre laquelle on ne pouvait pas s'opposer parce qu'elle était tout simplement trop forte. Il y avait son histoire, il y avait en effet les maladies dont elle a réchappé. Il y a le fait qu'elle soit revenue après sa maternité. C'est quelqu'un qui s'est toujours battu. C'était un peu elle contre le monde entier quoi, en permanence. Mm-hmm. Et on le sentait bien quand on était en conférence de presse avec elle. Il y avait une espèce de mélange de discrétion très américain, très américaine sur sa façon de ne pas dire les choses, mais en même temps parfois cette arrogance et ce côté voyez ce que je suis devenu, voyez d'où je viens, ben voilà, c'est ça Serena. D'ailleurs elle parlait à la troisième personne très souvent parce qu'elle savait qu'elle était un personnage qui dépassait la joueuse de tennis aussi.
Ouais, il y a un documentaire qui a été diffusé sur une célèbre plateforme de streaming, ça commence par un N et un X, voilà. On la voit remporter Roland-Garros, hein, qui est le rêve de, quand même, de nombreuses joueuses. Et qu'est-ce qu'elle fait ce soir-là, Serena Williams? Elle se couche à 22h devant un Walt Disney, voilà.
Oui, mais de toute façon, assez insaisissable, en effet, Serena Williams.
J'aimerais bien gagner à Roland-Garros, moi. Hein.
Oui,
je ne regarderais pas un Walt Disney. Bon,
peut-être qu'elle a banalisé ça, puisqu'elle en a gagné 23, et qu'elle aurait adoré en gagner 24 pour rejoindre Margaret Court comme la plus grande joueuse de l'histoire, en termes en tout cas de titres remportés en Grand Chelem. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on avait parfois l'impression qu'elle avait une forme d'indolence, comme si ça ne la touchait plus, ou que l'essentiel était ailleurs. C'était très étonnant par rapport à ça, cette forme de détachement accouplée à une détermination absolument sans faille quand elle était sur le terrain.
Il faut en parler de ces 23 ou 24 titres en Grand Chelem. C'est important, je pense que ça sera l'une de ses grandes frustrations. Elle a eu 4 occasions d'égaler Margaret Court. Elle n'y est pas parvenue. Je pense que psychologiquement, il y a eu une espèce de
blocage,
petit bug. Ouais, l'histoire, le vertige, comme on a pu le voir avec Djokovic, par exemple, à l'US Open il y a quelques mois quand il perd contre Medvedev. Mais on peut quand même rendre hommage à Serena Williams et lui dire que sur l'ère open, comme on dit, hein, le tennis professionnel depuis la fin des années 60, elle est la seule à avoir fait ça. Parce que Margaret Court, c'était à cheval entre deux époques. Absolument. On va dire, Serena Williams, c'est vraiment depuis 50 ans, là, depuis que le tennis est devenu ce qu'il est désormais, c'est elle la plus grande, c'est elle la reine.
7 Open d'Australie, 3 Roland-Garros, 7 Wimbledon.
3 Roland-Garros.
Trois Roland-Garros.
Ouais, ça a été un peu le talon d'Achille, la terre battue. Oh. Non, mais les sœurs Williams,
ça n'était pas beaucoup des joueurs de tennis qui ont minimum 3 grands chelems en simple.
Et oui, mais regardez, par exemple, elle fait 7 Wimbledon, 7 Australian
et 6 US Open.
Voilà, la terre battue, ça a été. Je pense qu'elle aurait battu sans doute le record de Margaret Court si elle avait été peut-être un petit peu plus désireuse, on va dire, de se perfectionner.
Absolument.
Sur la terre
battue. Absolument. Et deux raisons à ça. Voilà. Elle jouait très peu.
Elle n'avait pas beaucoup de préparation.
Voilà, elle faisait souvent des saisons à 10, 11, 12 tournois, ce qui est dérisoire. Les joueuses qui sont vraiment successful, comme disent les Américains, elles font 20 tournois, 18 tournois, et encore, on est relativement modeste là-dessus. Elle avait souvent des saisons, parce que choix ou parce que blessure, à 6, 7, 10 tournois. Donc, pas de préparation avant de jouer Roland-Garros. Souvent, sur terre battue, ça coûte assez cher. Et aussi, le fait qu'elle ne se sentait pas très à l'aise sur terre, ses coups allaient moins vite, ils étaient ralentis.
Les glissades.
Mais je trouve que, justement, le fait qu'elle ait gagné Roland, finalement, et 3 fois, sans glisser, sans être tellement préparée, montre à quel point c'était une championne hors norme.
Moi, j'espère que vous aurez la chance de commenter le dernier match de Serena Williams. Peu de chance qu'elle remporte quand même cette US Open. Oh, non. Jean-François Pérez, non, quand même pas.
Non, je pense que justement, le fait qu'elle ait perdu au premier tour...
Frédéric va commenter le match. Ça, c'est sûr, il va le commenter. En revanche, que Serena gagne l'US Open, hélas, je n'y crois pas une seconde.
Non, je suis pareil.
Voilà, Serena Williams, donc ce sont 23 titres en simple. Il y a aussi les titres en double. Hein.
Il y a un titre olympique aussi.
Quatre médailles d'or olympiques. Oui, parce qu'elle ne jouait en double qu'avec sa sœur.
Absolument.
Elle était invincible. Faut voir les sœurs Williams jouer en double. Ça fait du bruit et franchement.
Mais c'était phénoménal.
C'était phénoménal.
Impression extraordinaire.
Non, mais voilà, elle mérite des adieux, comme ce sera le cas sur le cours Arthur Ashe, sans doute en night session. Ça sera plein. Il y aura une atmosphère new-yorkaise comme elle les adore. Et puis derrière, c'est
électrique.
Une nouvelle vie qui s'annonce. Mmh. Et notamment dans la mode, on sait qu'elle adore ça. Donc on la verra peut-être sans doute encore défiler. Mais
c'est une femme d'affaires absolument hors norme. Ça va être la première femme dans le sport milliardaire, hein, en dollars. Personne n'a jamais fait ça avant elle. Même Maria Sharapova n'a pas approché ce total. Elle s'est magnifiquement diversifiée au fil des années.
On a le vertige, on n'a pas fini de faire les comptes avec Serena Williams. Merci Frédéric Verdier,
merci
journaliste, spécialiste tennis chez Amazon Prime et Eurosport, que vous aurez le plaisir d'entendre dès demain matin sur le match de Gaël Monfils au Masters 1000 du Canada. Et merci Jean-François Pérez, que vous retrouvez, alors là pour le coup, tous les jours sur Europe 1.
À très vite.
On se met un petit dernier coup de Serena. Tiens. Voilà, la rage de vaincre. Dans quelques instants, on reprend les choses sérieuses avec le débat d'Europe Soir. Nos hommes et femmes politiques doivent-elles être irréprochables face au réchauffement climatique dans leur comportement de tous les jours? Il y a eu la polémique du jet ski d'Emmanuel Macron et vous savez, des voitures dans la cour de l'Elysée aussi qui faisaient tourner les moteurs pour garder la clim au frais. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1, le débat d'Europe Soir. Nos politiques doivent-ils être éco-exemplaires? Doivent-ils avoir un comportement irréprochable s'agissant du gaspillage? Emmanuel Macron s'est fait tacler par ses adversaires écologistes parce qu'il est sorti en jet ski au large du fort de Brégançon et puis lors du dernier conseil des ministres. Rappelez-vous ces vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux montrant les voitures des ministres avec le moteur qui tourne pour laisser la clim bien fraîche. Nous en parlons avec une philosophe ce soir, spécialiste des questions en philosophie morale et politique. Bonsoir Laurence de Villers.
Bonsoir.
Et nous sommes également avec Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po. Alors cette image d'Emmanuel Macron sur un jet ski alors que nos pompiers luttent contre les flammes a fait scandale, en tout cas sur une partie de l'échiquier politique. Je peux citer par exemple la réaction de Sandrine Rousseau, la députée NUP Europe Écologie Les Verts, qui a qualifié ce geste de criminel. Il n'y a pas un peu d'excès là de la part de Sandrine Rousseau? Philippe Moreau-Chevrolet.
Alors de l'excès, non, parce que c'est vrai que l'image, enfin, on est dans une situation où on a quand même besoin d'exemplarité pour que les Français adoptent des comportements différents au quotidien. Et c'est vrai que c'est pas très heureux de voir le chef de l'État en jet ski d'une façon générale. Et en particulier dans cette circonstance, on a quand même une grosse partie du territoire qui est en train d'être menacée par les flammes avec des personnes déplacées. Et c'est un traumatisme qui s'ajoute à beaucoup d'autres traumatismes comme le Covid où l'exemplarité des politiques déjà avait été un sujet.
Alors Laurence de Villers, c'est criminel de faire une sortie en jet ski?
Alors tout d'abord le jet ski. Je pense qu'il faudrait interdire le jet ski parce que je crois que notre société est coupable d'avoir totalement détruit le silence ou à peu près. Mais physiquement, quantitativement, je crois qu'il y a presque plus de lieux de silence et la mer, qui reste peut-être un des derniers sanctuaires, va être ravagée et transformée en autoroute avec le jet ski. Donc déjà le jet ski en soi, je pense que c'est ça fait partie de ce tourisme qu'on ne veut plus voir en réalité. Et puis il y a effectivement ce côté complètement insouciant du jet ski. Maintenant, est-ce que oui, c'est à condamner. Moi, je vais même jusqu'à dire qu'il faut pénaliser les usagers du jet ski, qu'ils soient présidents ou pas, parce que ça n'a rien de résilient. Mais est-ce qu'il faut s'indigner tout le temps? La question que je me pose, c'est est-ce que c'est à coup d'émotion qu'on va sauver la planète? Est-ce que l'indignation, c'est la meilleure posture écologique? Je ne crois pas. Je crois que à s'indigner tout le temps, on met de côté l'action, la positivité même de faire quelque chose. Encore une fois, je pense que c'est indécent d'être en jet ski quand on demande par ailleurs aux Français, aux particuliers de faire des efforts, alors que, à mon sens, les efforts, ils doivent commencer par les institutions, l'État, les entreprises et puis ensuite les particuliers. Mais en face de cela, je vous pose la question, hein, est-ce que on sauvera le monde à coup d'indignation et d'émotion? Est-ce que en vandalisant la Joconde, on fait quelque chose pour les ours polaires, la planète, les océans pollués, etc.? J'en suis absolument pas convaincue.
Il y a une forme de morale comme ça envahit tout le débat public, Philippe Moreau-Chevrolet.
Oui, c'est très juste. Il y a une forme de morale qui est celle des hommes politiques. En fait, on s'interroge sur leur sincérité et on a besoin de preuves de sincérité. Plus on s'interroge, plus on a besoin de preuves. C'est un peu comme en amour. Et les politiques françaises sont comme un peu partout dans le monde mis en cause là-dessus. Donc c'est vrai que quand on voit des comportements privés qui s'opposent frontalement à des comportements publics qu'eux nous demandent de faire, porter un masque, faire attention à ne pas faire de fête à plusieurs dans un lieu confiné pendant le Covid ou maintenant, ne pas faire de sport polluant et respecter la nature, c'est vrai que ça choque parce qu'on se dit « mais attendez, pourquoi moi, cette personne me demande de faire des efforts ?» Ce que je peux comprendre intellectuellement pour le bien commun, alors que lui-même n'est pas prêt à faire ces efforts-là dans sa sphère privée. C'est tout le travail de l'homme politique, finalement. L'homme politique est en train de changer dans sa fonction presque. Et aujourd'hui, on attend de lui que 24 heures sur 24, il soit exemplaire. C'est très dur. Enfin, c'est un métier qui devient épouvantable. D'ailleurs, beaucoup de gens ne veulent plus être homme politique pour cette raison-là. Mais en même temps, c'est inévitable et c'est la règle aujourd'hui. Donc, c'est particulièrement maladroit de ne pas le comprendre. Et les hommes politiques français en particulier mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à s'adapter à cette nouvelle donne, alors qu'à l'étranger, on est un tout petit peu plus rapide. Qu'on pense à l'Allemagne ou aux pays scandinaves, par exemple, où on a des normes de comportement beaucoup plus strictes.
Je pensais surtout, moi, aux États-Unis, cette obsession de l'exemplarité. Hein. En mars dernier, il y avait un sondage pour Radio France, c'était au moment de la campagne présidentielle, qui révélait que l'exemplarité des responsables politiques était en tête des priorités des Français. Laurence de Villers, cette obsession de l'exemplarité, ce n'est pas une forme d'américanisation de la vie publique française?
Peut-être parce que l'américanisation, c'est un fait, elle est présente, elle est omniprésente, même dans notre langage. Mais je pense que l'exemplarité, c'est la dernière étape de la crise des autorités et des institutions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avant, il n'y a pas si longtemps, les institutions ou le pouvoir valaient pour eux-mêmes. C'était comme ça parce que c'était le pouvoir. C'était comme ça parce que c'était bien, c'était l'université, c'était l'église, c'était l'État, etc. Maintenant, ces institutions ne valent plus, comme le disait mon collègue, si elles ne donnent pas des preuves de leur valeur. Et c'est là que se joue l'exemplarité, et je pense que c'est un bien. Je crois qu'il ne faut pas confondre l'exemplarité avec le fait d'être parfait, d'être sans erreur, d'être héroïque, mais être exemplaire, oui, je pense que c'est la nouvelle donne politique. Mais encore une fois, j'insisterai sur un point. Dans tout ce moralisme, presque ce puritanisme, hein, cette idée qu'il faut être parfait pour faire quoi que ce soit. Ce qui manque, paradoxalement, c'est la morale. Je veux dire quoi par là? Le moralisme, c'est pas la morale. La morale, c'est la capacité à agir par principe, parce qu'on considère qu'il y a plus grand que soi. La sauvegarde de l'océan, c'est plus grand que le plaisir que je prends à faire du jet ski. Et donc, la morale, cette capacité à agir au nom de principes, je pense qu'en fait, c'est encore ce qui nous fait défaut. Donc, il y a comme, vous voyez, un télescopage entre une demande d'exemplarité, et je pense qu'elle est fondée et qu'elle va continuer à prendre de l'importance parce que les institutions ne valent plus par elles-mêmes. Et puis le fait que on voit pas très bien se dessiner ces principes au nom desquels on devrait agir. Par exemple, on nous parle de sauver la planète, respecter la planète, l'environnement, etc. Si c'est pas par l'indignation et les émotions, ça sera par principe. Mais lesquels? Vous voyez, je pense qu'on est à un moment où il faudrait une bascule de civilisation, quelque chose qui nous fasse agir autrement. Et je crois que ça manque. Donc il y a à la fois une demande très forte d'exemplarité et puis des principes qui ne sont pas encore clairement formulés, donc pas fermement respectés.
Philippe Moreau-Chevrolet, la vie publique devient une forme en fait, d'exutoire de nos propres frustrations, non ?
Oui, puisque d'une certaine façon, le rapport est direct aujourd'hui. Donc il est plus facile d'interpeller ces hommes politiques et de leur exprimer de la colère finalement qu'avant. Ce qui fait que je pense que la violence actuelle à l'égard des politiques, elle est pas neuve. Je pense qu'elle a toujours plus ou moins existé, mais aujourd'hui, elle s'exprime beaucoup plus facilement et elle devient finalement presque une part du jeu démocratique. C'est-à-dire qu'avant, on votait, aujourd'hui, on va peut-être plus facilement interpeller le politique, l'insulter, le prendre à partie. Et d'ailleurs, ça se ressent beaucoup, encore une fois, dans le quotidien des hommes politiques, hein, qui sont fréquemment sujet à des violences verbales, si ce n'est physiques. Mais c'est encore une fois un travail de construction du lien. Et c'est très difficile pour les politiques français d'y arriver parce que justement, il y a cette question de l'exemplarité qui est problématique à chaque fois qu'on a un scandale qui arrive, à chaque fois qu'on a une question de une ancienne ministre qui a donné des subventions à une entreprise et qui veut se rembaucher par cette entreprise. Ce sont des petites choses au fond en soi, c'est pas très grave, la Terre s'arrête pas de tourner pour ça. Et c'est vrai que la personne a raison de dire que c'est pas forcément une affaire gravissime, mais ça s'accumule et petit à petit, ça sape le rapport et ça crée de la violence.
Alors l'été n'est-il pas propice non plus à ce type de polémiques, d'expressions parfois violentes? J'ai en mémoire Jean-François Mattei en chemisette au moment de la canicule de 2003 particulièrement meurtrière, Jacques Chirac qui s'était adonné à du naturisme, ou encore Nicolas Sarkozy et son yacht. L'été, c'est le temps des polémiques. Laurence de Villers.
C'est le temps des polémiques parce que c'est peut-être le temps où on a, on réclame et on clame un droit au bonheur et on se rend compte que l'été, pas plus qu'en hiver ou en automne, on est, nous sommes égaux devant le bonheur. C'est que il y a des gens qui semblent plus heureux, en tout cas plus dans l'impunité et l'insouciance que nous. Donc je pense que ça fait ressurgir une forme de vous l'avez dit, de frustration liée à notre besoin d'égalité et de justice. Et on se rend compte que bah, c'est pas le cas. Il y en a qui n'ont pas de barque et d'autres qui ont des gros yachts. Mais voilà. Encore une fois, hein, cette exemplarité, je pense qu'elle est bonne. Elle est souhaitable, à condition qu'on la confonde pas avec une forme de chasse aux sorcières puritaine. Mais je suis surprise que des hommes politiques ne saisissent pas que notre démocratie actuelle, qui effectivement, comme on l'a dit, passe de moins en moins par le vote, mais de plus en plus par la colère, ne saisissent pas que leur légitimité, elle va trouver sa source dans leur comportement exemplaire. Autrement dit, on sera suivi, écouté, respecté et légitime là où on est, non pas tant parce qu'on aura gagné les élections, mais parce qu'on aura un comportement exemplaire. Et je crois que c'est là que ça se joue.
Et la quête de l'exemplarité, c'est pas la quête de la perfection non plus. Être exemplaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire je parle à une philosophe, vous savez mieux que moi que l'homme est naturellement imparfait. Être exemplaire, c'est quoi? C'est reconnaître ses torts, en fait.
Mais tant mieux. C'est-à-dire que y aurait pas d'exemplarité s'il y avait pas d'imperfection. Nous sommes êtres imparfaits, condamnés à être exemplaires. Parce que si la perfection était notre lot et si on était capable de perfection, on n'aurait pas à faire la preuve ou à montrer le courage qu'il y a à être exemplaire. Être exemplaire, c'est prendre la décision et la bonne, c'est avoir le courage de préférer ce qui va me coûter ou me déranger ou me faire faire un détour plutôt que mon plaisir immédiat. Donc précisément, c'est parce que nous ne sommes pas parfaits et que nous ne devons pas l'être, que nous devons au contraire être exemplaires, parce que derrière, il y a une force morale, il y a un courage moral.
Philippe Moreau-Chevrolet, on va tout droit vers le puritanisme à l'américaine.
Je pense qu'on en est quand même très loin, mais je pense qu'on va vers une forme de dévoilement permanent, c'est-à-dire qu'il y aura plus, il n'y a plus déjà en réalité d'espace privé pour les hommes politiques. On a vu avec l'affaire Benjamin Griveaux, par exemple, qui était un bon exemple d'américanisation, que ça pouvait rejoindre l'intime et que ça pouvait durablement affecter la carrière d'un homme politique. Donc je pense que le basculement, il a été fait. Ça impose une forme de discipline personnelle qui, encore une fois, est très dure. Donc ça suscite une vraie crise des vocations politiques. Beaucoup de gens se disent qu'ils ne sont pas faits pour ce métier, entre guillemets, parce qu'ils ne peuvent pas supporter justement cette pression permanente. Maintenant, je pense que si on veut être un héros en politique, et je rejoins ce que disait Laurence de Villers tout à l'heure, quand on veut être un héros en politique, en fait, il ne faut pas se tromper de combat. Je pense qu'un héros aujourd'hui, ce n'est pas tellement le héros qui va sauver le pays de quelque chose nécessairement. C'est la personne qui va savoir justement être exemplaire, donc porter un masque quand il faut porter un masque, dire aux gens des choses parfois désagréables, ne pas faire de jet ski alors que par ailleurs on a des zones en feu dans le pays avec un discours climatique au-delà de la catastrophe. Ça veut dire ça être un héros finalement, un héros en politique. Ça change aussi la donne parce que les actes du quotidien deviennent porteurs de sens.
C'est ce qui a conduit à la défaite de François Fillon lors de la présidentielle en 2017, Laurence de Villers.
Ah oui, absolument. Ah oui, absolument. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on demande beaucoup moins d'idéologie et beaucoup plus d'exemplarité. C'est comme si l'exemplarité devait maintenant tenir lieu de colonne vertébrale et de discours. Je pense qu'on a parlé de la fin des idéologies, et puis on le voit, on en est même à la fin des partis politiques. Mais on peut pas rester avec ce vide en politique. Et ce vide va être comblé, ou il est en train d'être comblé, par une demande d'exemplarité très forte. Mais encore une fois, ne nous trompons pas de combat. S'indigner en permanence, faire une traque, tomber dans le puritanisme qui empêche de penser ou de dire ou d'être dans l'opposition, ça c'est un mauvais combat. En revanche, avoir une tenue morale, une dignité, ça je pense que c'est difficile, mais ça va être la première qualité de l'homme et de la femme politique.
Philippe Moreau-Chevrolet, au moment de l'affaire Fillon, en fait, on s'était posé la question des privilèges C'est ça qui était au centre du débat. La France veut en finir dans cet ancien royaume.
Oui, c'est la question de l'égalité, comme le disait tout à l'heure Laurence de Villers, elle est complètement centrale. C'est en France, on a une volonté farouche d'égalité, qui n'est pas forcément radicale, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que tout le monde soit au même niveau. En revanche, on ne supporte pas qu'un homme politique, qui est supposé être à notre service, entre guillemets, s'octroie des privilèges ou de l'impunité, disons, au-delà d'un certain niveau, ou en tout cas, visible. Voilà. Pendant des décennies, ça a été la question de... pour la plupart des gens, je ne vais pas forcément regarder, on ne va pas forcément me montrer, je vais faire comme si je ne savais pas que ces privilèges existaient. Et dans ce cas-là, ça fonctionnait, c'est-à-dire vous pouviez avoir Jacques Chirac qui mangeait sa tête de veau et en même temps qui sortait des liasses de billets et qui allait en vacances à l'île Maurice. Il y a eu un basculement pendant précisément le mandat de Jacques Chirac qui a arrêté d'aller à l'île Maurice en vacances, qui a du coup... Qui est allé au fort de Brégançon, hein, bon, ce qui a posé d'autres problèmes, vous l'avez dit. du coup, ce basculement-là, il est maintenant acquis. Il faut que les politiques s'adaptent. Et moi, je pense qu'il y a un très gros problème en France, qui est qu'on ne fait pas de recherche sur les hommes politiques qu'on pose, qu'on met à des responsabilités, qu'on porte à des responsabilités. Aux États-Unis, il y a des procédures qui s'appellent le vetting, c'est-à-dire qu'on fait une enquête de moralité sur un homme politique qu'on va présenter à un poste ou à une fonction, ou même comme candidat à une élection. Ça permet d'éviter un certain nombre de problèmes. Si vous regardez, pour le coup, Éric Coquerel chez NUP, chez LFI, quand il a été candidat à la présidence de la Commission des Finances, tout ce débat-là sur son passé et ses agissements ou non aurait pu être évité si on avait juste pris quelqu'un de différent parce qu'on aurait enquêté et estimé que le risque était trop important, ce que de mon point de vue il était. Donc c'est s'adapter, c'est qu'il faut que les partis fassent la chasse chez eux au profil problématique. Et oui, c'est pas très sympathique, mais c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui.
Alors Philippe Moreau-Chevrolet, je suis content parce que vous nous emmenez à l'Assemblée nationale. Il nous reste 5 minutes et j'aimerais qu'on fasse un petit bilan des premiers pas de cette nouvelle législature, cet hémicycle fragmenté qui donne lieu à du chahut parfois et à des compromis. Tiens, question philosophique, Laurence de Villers, assiste-t-on à des compromis ou à des compromissions de la part de la majorité présidentielle après ces premiers mois ?
En fait, je pense que là encore, on s'étonne, voire on s'indigne de procédures qui sont complètement parlementaires, qui sont la démocratie même. Moi, je préfère quand la colère, elle s'exprime au sein des mécanismes de fonctionnement de la démocratie plutôt que ailleurs, dans la rue ou dans des lieux où elle peut pas vraiment s'exprimer. Donc, tant mieux. Enfin, qu'il y ait du chahut à l'Assemblée, pourquoi pas. C'est aussi un haut lieu de la rhétorique, de l'emploignade, pourvu que ce soit fait dans une dignité et des mots et des personnes. Donc, je trouve qu'on assiste à une vie parlementaire. Maintenant, je posais comme seule condition ou limite la dignité et verbale et de comportement. Je suis pas certaine que cette ligne-là, tous les députés les bien en tête.
Philippe Moreau-Chevrolet, vous êtes professeur de communication. On entend beaucoup la NUP hein, depuis la fin des élections législatives. Est-ce qu'il n'y a pas là une stratégie un peu perdante ?
Il y a une stratégie, ça, c'est sûr.
Il y a une stratégie, on est d'accord. La stratégie du chahut, enfin, du coup d'éclat permanent.
D'être dans l'opposition. Enfin, en gros, la NUP cherche à incarner l'opposition à Emmanuel Macron et à dire, au fond, à rétablir une forme de clarté du clivage en disant, nous, on est la gauche et Emmanuel Macron plus LR plus le RN sont la droite. Et d'une certaine façon. En tout cas, l'exécutif, au moins au départ, a donné l'impression d'aller dans ce sens en faisant de la NUP aussi son adversaire principal. La stratégie du RN est très différente. La stratégie du RN, c'est de dire, nous, on est au fond un parti de gouvernement, donc on porte des cravates. Là-dessus, Marine Le Pen a été très claire à ses troupes au moment de l'installation à l'Assemblée nationale. On fait une photo discrète, sage, vous venez tous en cravate, bien habillés, vous ne vous faites pas remarquer. Et cette stratégie complètement à l'opposé de celle de la NUP, est payante pour le RN aussi, puisque finalement, il vote quelque part avec le gouvernement ou avec LR, parfois avec la NUP aussi, hein, mais en gros, ils ont l'air de suivre une boussole et de faire de la politique là où la NUP a l'air de faire plutôt de l'agitation médiatique et d'une certaine façon de la propagande ou de la communication précisément. Donc c'est très différent comme stratégie parce que les ambitions ne sont pas les mêmes. Dans le cas de Jean-Luc Mélenchon et de la NUP, c'est de renverser la table un jour pour prendre le pouvoir et devenir un gouvernement de gauche. Pour le RN, c'est moins clair. Il y a peut-être une stratégie d'alliance ou peut-être une stratégie sur le long terme de récupérer la droite et de devenir au fond, quelque part, le leader naturel de la droite, ce qui est tout à fait, par ailleurs, faisable. En tout cas, à ce rythme-là, ça devient de plus en plus faisable pour le RN à l'horizon 2027.
Laurence de Villers portait une cravate, travaillait à sa respectabilité, ses gages de crédibilité.
Ça en fait partie. Vous me direz, ce sont des accessoires et c'est le règne des apparences, mais... Qu'est-ce que la politique, sinon le règne des apparences? C'est, une cravate peut faire la différence. Encore une fois, ça peut paraître dérisoire, mais il y a des choses dérisoires qui font l'histoire. C'est pas moi qui le dis, c'est Pascal. Il y a des siècles de cela, le nez de Cléopâtre, ça a changé la face de l'histoire. Donc la respectabilité, elle se joue pas sur des accessoires, mais sur des symboles. Et une cravate, une tenue, un français correct, un français même châtié. Qui ne ressemble pas à des discours de RH ou de distributeurs de café, ça me semble important. Et oui, la respectabilité, elle se joue là aussi.
Et là, le RN marque des points face à l'extrême gauche. La gauche de la gauche, la NUP.
Mais je ne dirais pas mieux que
Philippe Chevrolet.
Hein. Je pense qu'il y a, à mon sens, dans le RN, il y a la volonté d'incarner la nouvelle droite. Alors qu'en face, il y a une gauche qui veut effectivement plutôt renverser ce qui existe pour faire advenir quelque chose d'autre. Donc d'un côté, on joue la respectabilité parce que le RPR de demain, c'est finalement le RN. Et puis de l'autre côté, on fait de la politique uniquement à coup d'indignation.
Merci Laurence de Villers. Je rappelle que vous êtes philosophe, spécialiste des questions en philosophie morale et politique, auteur de Petite philosophie de la mer et aux éditions de La Martinière. Merci Philippe Moreau-Chevrolet. Vous êtes professeur de communication politique à Sciences Po et co-auteur de la BD Le Président. C'est aux éditions des Arènes. Merci à vous. Restez avec nous dans quelques instants, un nouveau journal, le journal de 19h. Il vous sera présenté par Wilfried de Villers. A tout de suite sur Europe.
Europe Soir. Raphaël Delvolvé.
Aux alentours de 19h15, juste après le journal de 19h, nous évoquerons ce cas de poliomyélite détecté aux États-Unis le mois dernier. La polio est-elle de retour ? Nous en parlerons avec un infectiologue. Ce sera donc juste après le journal. Il est 19h sur Europe 1. Et cette nouvelle édition vous est présentée par Wilfried de Villers. Bonsoir Wilfried.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous.
Face au gigafeu de Gironde, la France reçoit de l'aide européenne.
361 pompiers, 101 véhicules sont en train d'arriver sur le front de l'incendie de Landiras. Une aide venue de Roumanie, de Pologne ou encore de Grèce et d'Italie. La centrale de Zaporijjia et les inquiétudes internationales d'une catastrophe nucléaire. Nouveau bombardement proche du site ukrainien aujourd'hui. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence à partir de 21h. Très économique, les vols low cost ont la cote cet été. Les compagnies à petit prix retrouvent leur niveau d'avant Covid, même si leurs tarifs vont augmenter légèrement dans les mois à venir. Et puis côté football, une grande question. Le match entre Lorient et l'Olympique Lyonnais va-t-il avoir lieu? Il est prévu dimanche. Problème, la pelouse du stade de Lorient est très abîmée.
Allez, la tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, 19 départements en vigilance orange canicule sous un soleil de plomb du nord au sud et un vent d'est entre l'île et Paris et en vallée du Rhône.
C'est bien noté, merci Valérie. À tout à l'heure pour une météo complète. Un véritable mur de feu et des pompiers qui livrent une bataille acharnée pour tenter de contenir l'incendie.
En Gironde, plus de 7400 hectares sont partis en fumée ces deux derniers jours après la reprise de l'incendie de Landiras. La première ministre Elisabeth Borne et le responsable de l'intérieur Gérald Darmanin étaient sur place aujourd'hui. Chloé Lagadou a suivi le déplacement ministériel.
Sous un soleil de plomb, Elisabeth Borne salue les élus locaux et parmi eux Ghislaine Charles. La maire de Saint-Magne, commune lourdement touchée par les incendies, profite de l'occasion pour implorer la Première ministre.
Je me suis promis de vous demander, s'il vous plaît, des moyens aériens. Ils
ils ont tellement de facultés à fixer le feu avec les hélicoptères, c'est formidable, et il en faudrait plus.
Pourtant, Elisabeth Borne n'en démord pas. Selon elle, tout est mis en œuvre pour lutter contre les incendies.
On n'a jamais mobilisé autant de moyens, on va continuer à se renforcer. Le président de la République, quand il est venu fin juillet, avait annoncé qu'on allait renforcer nos moyens d'intervention. Depuis, on est passé de 2 hélicoptères bombardiers d'eau à 9 aujourd'hui, et d'ici la fin de la semaine, 11 hélicoptères bombardiers.
Et à cela s'ajoute la solidarité européenne. 2 canadairs grecs, des avions suédois et aussi des sapeurs-pompiers d'Allemagne ou encore de Roumanie arriveront ce soir en Gironde.
Chloé Lagadou dans le détail. 361 pompiers et 101 véhicules sont attendus dans les prochaines heures. Les pompiers s'activent en ce moment sur un front qui s'étend sur une quarantaine de kilomètres. Un combat de tous les instants. Écoutez le préfet de Nouvelle-Aquitaine délégué à la sécurité, Martin Guespro.
Certains points sont particulièrement chauds. Le feu a des comportements avec un vent assez erratique qu'on a eu aujourd'hui, étonnant, où il revient dans la zone brûlée et réattaque des fronts. Nous avons donc plusieurs batailles qui sont en route en ce moment. Une bataille au nord sur une route, la RD 111. Une bataille de Belin-Belier, qui est une ville que nous protégeons ardemment depuis déjà maintenant 24 heures. Une bataille aussi sur l'A63, qui se trouve à une distance dangereuse du feu et qui donc continue à être fermée à l'heure où je vous parle.
Martin Guespro, le préfet de Nouvelle-Aquitaine délégué à la sécurité. Les habitants de Gironde pensaient espérer du moins que le cauchemar des incendies de juillet était derrière eux. La reprise du feu les a parfois pris de court. Certains à Austins, à Sainte-Magne, à Belin-Bélier ont vu le feu reprendre et s'approcher de leur maison. Témoignage.
On m'a appelé en catastrophe mardi, me dire que le feu venait vers le quartier ici. Donc je suis rentré de Cadillac, on a fait la circulation sur le carrefour pour pas que les gens aillent sur Austins. Après, les gendarmes sont venus nous relayer, puis dans la soirée, on a été évacués. Le feu est arrivé en face, le vent a tourné, il a rabattu le feu vers ici. Donc j'avais le feu juste en face de chez moi. Et c'est impressionnant parce que vous avez les flammes, vous avez la maison, vous dites je m'en vais, je ne sais pas si je la retrouve ou si je ne la retrouve pas.
On avait des pignes de pin qui commençaient à tomber sur la terrasse. À 20h, on nous a demandé d'évacuer. À minuit, c'était au bord de la route là-haut. Un brasier, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Un brasier qui arrivait là, comme ça. Un mur de flammes, voilà, un mur de flammes.
Propos recueillis par notre envoyé spécial en Gironde, Guillaume Dominguez. On le rappelle, plus de 10 000 personnes ont été évacuées depuis mardi soir. Des maisons, 17 au moins, pour la plupart isolées, ont été détruites par l'incendie. La Haute-Vienne, placée en alerte orange canicule, elle rejoint les 18 autres départements qui sont déjà en alerte, principalement dans l'ouest de la France. Et il va faire encore très chaud dans les prochains jours, jusqu'à 41 degrés localement en Vendée demain. Et pour souffler un peu, il faudra attendre jusqu'à dimanche où des orages sont prévus. Des orages, mais peu de précipitations. Trop peu de pluie, moins de 10 mm le mois dernier, ce qui fait que le niveau des nappes phréatiques est en nette baisse cet été en France. Une situation qui alarme le bureau de recherche géologique et minière, notamment dans le centre-ouest, dans le Poitou. Et s'il va bien pleuvoir en fin de semaine, l'eau risque de ne pas pouvoir s'infiltrer suffisamment en profondeur en cause des sols bien trop secs cet été.
En Ukraine, de nouvelles frappes proches de la centrale de Zaporijjia.
On parle d'au moins 5 bombardements tout proche d'un dépôt de substances radioactives. Plusieurs capteurs de radiation seraient notamment endommagés. Kiev et Moscou s'accusent comme toujours mutuellement de ces bombardements. La situation inquiète au plus haut point alors que le spectre de la catastrophe de Tchernobyl est dans tous les esprits. Bonsoir Alexandra Gégy.
Bonsoir.
La preuve que la menace est prise très au sérieux, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence ce soir pour évoquer la situation.
Oui, ce soir à 21h, c'est Raphaël Grossi, directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui s'adressera au Conseil de sécurité de l'ONU. Il demande que des experts puissent se rendre sur place dès que possible. Selon lui, le risque d'une catastrophe nucléaire est réel pour 3 raisons majeures, détaille Bruno Charéron, directeur de la CRIRAD, commission de recherche indépendante sur la radioactivité.
À la fois, bien sûr, à cause des bombardements qui ont atteint des systèmes vitaux pour la sûreté, lignes à haute tension en particulier, mais aussi du fait que les troupes russes auraient déposé des explosifs, miné certaines parties de cette centrale. Et il ne faut pas oublier aussi les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles travaille le personnel d'exploitation qui est sous l'occupation de forces armées extérieures. Ça veut dire une grande difficulté à exploiter correctement et sereinement cette centrale.
Par ailleurs, plusieurs capteurs de radiation sont endommagés selon un opérateur ukrainien. Le G7 exige que la Russie rende immédiatement le contrôle total de la centrale à l'Ukraine.
Et Washington, merci Alexandra. Washington affirme ce soir soutenir le projet d'une zone démilitarisée autour de la centrale de Zaporijjia. Rappelons que la zone est aux mains des Russes depuis mars dernier. Cela faisait près de 6 mois que l'enseigne avait fermé boutique en Ukraine. McDonald's va progressivement rouvrir certains de ses magasins, notamment à Kiev et dans l'ouest du pays.
Prendre l'avion pour pas cher le temps d'un week-end ou de vacances européennes, le low-cost redécolle cet été.
Et vous avez été nombreux à voyager avec des compagnies low-cost comme Ryanair ou Wizz Air. Le secteur connaît un boom de fréquentation et cela malgré les multiples grèves cet été. Bonsoir Noah Moussa.
Bonsoir Wilfried, bonsoir à tous.
La plupart des compagnies low-cost ont retrouvé leur niveau d'activité d'avant Covid. Certaines même le dépassent.
Et oui, hein, c'est un été resplendissant pour les compagnies aériennes à bas prix. Ryanair a même ajouté 300 vols quotidiens à sa flotte. Pour vous donner une idée, au mois de juillet, la compagnie irlandaise a transporté près de 17 millions de passagers, soit presque autant qu'Air France au premier semestre. Un succès qui s'explique par l'attractivité du sud de l'Europe, comme l'explique Jean-Pierre Masse, président des entreprises du voyage.
Les compagnies low cost vont plutôt du nord vers le sud, c'est-à-dire en Espagne, en Italie, au Portugal, aux Canaries. Ce qui fait leur succès de l'été, elles desservent souvent des destinations touristiques qui ne sont pas desservies par les autres compagnies.
Et la palme revient à Ryanair qui ambitionne de monter à 225 millions de passagers d'ici à 2026. L'Irlandais deviendrait donc le numéro 1 mondial du transport aérien.
En parlant de Ryanair, la compagnie a annoncé ce matin l'arrêt de la vente de ses billets à premier prix à 10 euros.
Et oui, hein. Le PDG de la compagnie prévoit un tarif moyen plus proche des 50 euros que des 10 euros au cours des 5 prochaines années. En cause, la hausse des prix de l'énergie qui ronge les marges des transporteurs aériens. Une mauvaise nouvelle donc pour les voyageurs à petit budget.
Noah Moussa du service économie d'Europe 1. Le sport à présent, la Ligue 1 et ses inquiétudes concernant le match de ce week-end entre Lorient et l'Olympique Lyonnais.
Il doit avoir lieu dans la ville bretonne. Seulement problème, la pelouse du stade du Moustoir est dans un sale état, meurtri par les piétinements du public du festival interceltique le week-end dernier. Bonsoir Colin Abgral.
Bonsoir Wilfried, bonsoir à tous.
La tenue du match dimanche après-midi est donc en suspens.
Oui, pendant que c'est la fête du côté de Lorient, c'est la grosse grimace dans le camp de l'Olympique Lyonnais. À la suite d'une photo postée hier sur les réseaux sociaux, l'OL a alerté la commission d'organisation de la Ligue de football professionnelle. Résultat, 2 délégués ont été envoyés sur place aujourd'hui, non pas pour profiter de la musique, mais bien pour examiner la pelouse qui apparaît à 50% brunie à cause de la sécheresse et aussi à cause des festivaliers. Nous avons contacté l'OL aujourd'hui qui nous a répondu qu'il refuse de jouer sur une pelouse dégradée qui pourrait favoriser des blessures. De l'autre côté, Arnaud Tanguy, directeur général de Lorient, a expliqué au journal L'Équipe que la pelouse hybride du stade était bien praticable. Seulement, il reste encore un concert au Moustoir ce soir. Qui ne va pas arranger les choses. Et ce qui est intriguant, c'est qu'aucun parti n'avait vu venir ce problème alors qu'il pouvait facilement être anticipé. Quand on sait que le festival interceltique se déroule toujours à cette période et que le calendrier de la Ligue 1 a lui été dévoilé il y a plus d'un mois. Les 2 délégués de la Ligue présents sur place effectueront un deuxième examen de la pelouse demain matin qui amènera à une réponse définitive demain après-midi. On saura donc si le match est reporté, délocalisé ou bien toujours programmé pour dimanche à 13h.
Merci Colin Abgral du service sport d'Europe 1.
Notre série estivale sur ces travailleurs du bonheur, ces Français qui aiment leur métro, leur travail, leur boulot. Mais justement, nous allons dans le métro.
Exactement, rencontre avec le seul chanteur d'opéra qui préfère la scène des sous-sols parisiens, la scène des sous-sols du métro, que les planchers d'opéra. Il est au micro de Marie Gicquel.
Je m'appelle Christophe Ménager, je chante dans le métro depuis le conservatoire, ça fait au moins 40-45 ans.
Quel organe phonatoire, Christophe.
Très bien, excellent. Un petit Ave Maria, ça remet en forme. Et tu vois, finalement, l'Ave Maria rapporte 15 pièces de 20 centimes quand même. Hein. Tu sais que ça se vend bien, Maria.
Dis donc, les annonces, là...
Oui, mais ça, je suis plus fort que les annonces. À un moment, j'avais débranché le haut-parleur juste au-dessus de moi. Donc, j'avais coupé carrément le haut-parleur. Parce que, alors, qui c'est qui chante ici, hein? Est-ce que c'est le petit gars qui a fait les annonces? Non. Alors ça, je le fais pas parce qu'en fait, ils vont me virer du métro.
Je peux pas faire... Non, je peux pas. Allez, si, vas-y. Non.
Allez, c'est un duo improvisé avec un usager du métro et le chanteur du métro.
Vous avez les paroles?
Non.
Nuit d'amour... Souris à nos ivresses.
Oh là là, t'as vu, t'attires tout le monde.
Oh ben non, c'est la vie du métro quand même.
Tu les rends heureux, les usagers du métro, hein.
Oui, mais moi aussi, ils me rendent heureux. Si j'ai pas ça, en fait, c'est quand même une sorte de... une addiction, quoi, toi, un espèce de truc qui te recharge psychiquement, toi. En fait, sinon, t'es rien. Mais si j'ai pas ça, je meurs. Alors je ne peux même plus profiter de la bonne vie.
Voilà, pour entendre le chanteur hein, d'opéra, c'est, ça se passe à la station Bastille du métro parisien.
Ouais, j'ai reconnu la Baccarole d'Offenbach, les Contes d'Hoffmann, mythique opéra qu'on écoute hein, aussi dans un film magnifique, La vie est belle de Roberto Benigni. La météo avec Valérie Darmon, toujours très chaud demain et samedi, puis orageux dimanche.
Effectivement, les deux prochains jours, la chaleur sera intense partout avec la poursuite de la canicule sur l'ouest et les régions centres. Après une nuit tropicale, avec des minimales autour de 20 degrés, les maximales vont atteindre 34 à 38 en moyenne l'après-midi à l'ouest, alors que les valeurs afficheront 32 à 35 en général du centre à la façade est et localement des pointes à 40 dans le sud-ouest et en moyenne vallée du Rhône. Dimanche, du sud-ouest au centre, les orages violents sont attendus. Les températures devraient baisser par l'ouest, mais rester très élevées à l'est. Et puis lundi 15 août, le temps devrait rester lourd et orageux, notamment sur la façade est, cette fois, et sur les reliefs, alors qu'il va redevenir sec par l'ouest et beaucoup moins chaud. Ces températures qui resteront tout de même supérieures aux moyennes de saison.
Ouais, on sent bien que c'est la fin de cette vague de chaleur. Les orages arrivent. Va falloir faire attention ce week-end. Merci Valérie Darmon. Dans quelques instants, nous évoquons ce début d'épidémie de polio. En tout cas, les autorités de l'État de New York l'évoquent ainsi. C'était le 21 juillet dernier. Un infectiologue, Stéphane Gaillet, sera avec nous dans quelques instants. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, 18h-20h. Raphaël Delvolvé.
Ah bah te voilà, ça fait 2 heures que je te cherche.
J'ai laissé mon sac au bar, je suis allée le chercher.
Il est hyper petit ton sac, t'arrives à ranger quoi là-dedans à part ta carte et un chewing-gum?
Mon nouveau Galaxy Z Flip 4 par exemple.
Ah c'est le nouveau téléphone pliable Samsung, c'est ça? Incroyable!
Eh ouais, un clap et c'est dans le sac.
Les nouveaux téléphones pliables Samsung sont arrivés. En ce moment, 150 euros remboursés pour l'achat d'un Samsung Galaxy Z Flip 4 avec la reprise de votre ancien appareil. Mais vous n'avez que jusqu'au 25 août pour en profiter. Conditions de l'offre sur samsung.com.
Leclerc. Le goût du frais, ça se défend tous les jours.
Bonjour.
Bonjour.
Vous avez quoi de bon aujourd'hui?
Ah, vous tombez bien. Je viens de recevoir ces belles pêches jaunes et blanches origine France et issues d'un verger éco-responsable.
Elles sont magnifiques. Et à 2,89€ le kilo en plus.
Exactement.
Belles, bonnes et pas chères. Comment vous voulez que je résiste? Allez, je vous en prends un kilo.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 12 au 14 août, catégorie 1, calibre A. Modalité et magasin participant sur www.e.leclerc.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1, le 21 juillet dernier, un cas de polio a été confirmé aux États-Unis dans l'État de New York. Selon les autorités locales, ça n'est qu'une partie émergée de l'iceberg puisqu'un seul cas de polio observé peut en entraîner des centaines d'autres. Alors doit-on craindre une nouvelle crise sanitaire, une flambée de cas de polio aux États-Unis, puis en Europe, puis en fait dans le reste du monde? Nous en parlons avec Stéphane Gaillet, infectiologue. Bonsoir.
Bonsoir, merci pour votre invitation.
Alors, question simple pour commencer, comment dépiste-t-on la polio et quels sont les symptômes?
La polio est déjà due à un virus, c'est un très petit virus à ARN, mais qui n'a absolument rien à voir avec les coronavirus. La poliomyélite, se traduit par parfois rien du tout, mais généralement un peu de fièvre, un mal de gorge, un mal de tête, et le plus souvent, la très grande majorité des cas, on en reste là. C'est-à-dire que ça passe inaperçu, ça ressemble à une espèce de une sorte de rhume d'été, de pharyngite. Et puis, chez une très petite proportion de gens infectés par le virus, apparaissent des douleurs musculaires et puis, chez une proportion encore plus petite, des paralysies. Et ces paralysies peuvent régresser tant que la fièvre persiste. Mais dès l'instant où la fièvre chute et que des paralysies se sont installées, elle ne régresse plus. Et il y a une très petite proportion de personnes qui peuvent mourir de la poliomyélite antérieure aiguë par atteinte des muscles respiratoires ou par atteinte du bulbe rachidien qui commande les centres respiratoires. Voilà. Alors, le diagnostic, il est déjà clinique. Il repose sur les symptômes et les signes que nous avons vus. Et puis, ensuite, il faut faire une confirmation virologique par un prélèvement de gorge ou un prélèvement de sel et éventuellement un prélèvement sanguin. Mais le prélèvement sanguin n'a pas tellement d'intérêt à la phase aiguë. C'est surtout le prélèvement de gorge et le prélèvement de sel. Mais évidemment, encore faut-il y penser.
Alors, voilà la polio, c'est une maladie, un virus dont on parlait au passé, dont on parle encore au passé dans les pays occidentaux. Ça ne vous a pas surpris de voir ce cas avéré aux États-Unis ?
Pas tellement, parce que bon, les États-Unis, c'est un pays, c'est un melting pot, bien entendu. C'est un pays qui accueille énormément de personnes. Il y a un flux de personnes de tous les pays du monde très, très important. Et il est difficile, dans un pays fédéral aussi vaste, il est difficile de pouvoir contrôler l'immunisation de la population par la vaccination. Parce qu'il faut insister sur un point qui est vraiment essentiel, c'est que cette vaccination qui n'est pas curable, cette maladie qui n'est pas curable lorsqu'elle est installée, elle bénéficie d'une vaccination très efficace. C'est le vaccin injectable qui protège contre les trois types de virus poliomyélitiques. En France, on a un taux de vaccination qui est pratiquement de 100%.
Et oui, ça fait partie des vaccins obligatoires quand on est nourrisson, en fait.
Oui, depuis 2018, le vaccin contre la polio ainsi que d'autres est obligatoire chez tous les nourrissons et on l'administre dès l'âge de 2 mois avec une seconde injection à 4 mois. Avec 2 injections, on est immunisé. 2 injections qui sont séparées d'1 à 2 mois. Et chez les adultes, on recommande ensuite d'entretenir cette immunité par un rappel à 25 ans, à 45 ans, à 65 ans, et ensuite tous les 10 ans, 75 ans, 85 ans. Mais il ne faut jamais cesser. Il ne faut jamais cesser.
Et ça, il y a beaucoup de gens qui oublient le rappel, professeur.
Mais les médecins généralistes sont là pour le rappeler. Et tout le monde maintenant...
Mais le mien ne l'a pas rappelé, le mien. Je n'ai pas fait mon rappel contre la polio. Je vous le confie, monsieur Gaillet.
Diphtérie, tétanos, polio, DT polio, c'est ce que l'on doit faire. Avant, ça a été longtemps, tous les 10 ans, chez tous les adultes. Et puis maintenant, on a espacé les injections, étant donné que ce sont des vaccins qui sont très immunisants. Et bien, si vous n'êtes pas vacciné, je vous recommande d'aller voir votre généraliste. C'est une excellente occasion. Il ne faut pas inquiéter la population, mais c'est vraiment l'occasion de faire un rappel vaccinal. C'est très important. Surtout que, j'insiste, ce vaccin contre la polio est très efficace et très bien toléré. Ça ne se discute pas. On peut discuter de l'innocuité, de l'efficacité pour certains vaccins, mais certainement pas pour le vaccin polio, qui est remarquablement efficace et bien toléré. J'y insiste, ainsi que le vaccin contre le tétanos.
Alors, avec l'émergence de ce cas aux États-Unis, est-ce qu'il va falloir quand même relancer les rappels en France ?
Ah, certainement. On considère que le taux d'immunité de la population française est proche de 100%, mais comme vous le dites, vous et certainement d'autres personnes, il y a certainement des gens qui n'entretiennent pas leur vaccination. Mais étant donné que c'est un vaccin très efficace, même si on n'est pas exactement dans l'intervalle qui est préconisé pour les injections, on reste quand même assez bien protégé. Mais c'est l'occasion de rappeler qu'il faut absolument vérifier où on en est et donc avoir une injection de rappel. Donc en France, il ne faut pas trop s'inquiéter. Ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu de cas autochtones. Donc la France est un des pays les mieux protégés. Ça fait environ 20 ans qu'il n'y a pas eu de cas autochtones en Grande-Bretagne et un peu plus, environ 10 ans, qu'il n'y avait pas eu aux États-Unis.
Mais vous parlez de la Grande-Bretagne, ouais. Des traces de virus de la polio ont été recensées fin juin.
Oui, c'est ça. Alors ça, c'est dans les eaux usées, parce que comme c'est un virus qui est très résistant sur le plan physico-chimique, on le retrouve dans les eaux usées où il persiste très longtemps, très très longtemps. Et du reste, quand on voyage, on peut se contaminer en mangeant des coquillages ou aussi de l'eau du robinet dans certains pays où le virus circule beaucoup.
Alors, j'ai oublié de vous poser cette question. Où sont les principaux foyers de polio aujourd'hui sur la planète ?
Il y a deux pays dans lesquels le virus qu'on appelle sauvage, de type 1, c'est-à-dire virus sauvage, c'est le virus qui est natif. Il y a deux pays dans le monde où le virus sauvage est toujours présent, c'est l'Afghanistan et le Pakistan. Mais ce ne sont pas beaucoup de cas. Il y a quelques dizaines de cas chaque année qui sont recensés dans ces deux pays. Par ailleurs, ça c'est pour le virus sauvage de type 1. Les virus sauvages de type 2 et 3, eux, sont considérés par l'OMS comme éradiqués. Mais par ailleurs, il y a ce qu'on appelle des virus vaccinaux qui circulent alors dans une soixantaine de pays du monde. Et alors, pourquoi les appelle-t-on des virus vaccinaux ? Parce que ce sont des personnes qui ont été vaccinées par un vaccin qu'on n'utilise plus en France, c'est le vaccin oral, qui est un vaccin vivant, entre guillemets, il faudrait dire plutôt répliquant. Et de temps en temps, dans de très rares cas, ce virus que l'on ingère pour se protéger, qui est un virus inoffensif, eh bien, il retrouve une certaine virulence, un certain pouvoir pathogène. Et il y a donc, et comme il est répliquant, hein, il peut ensuite regagner les eaux usées, contaminer d'autres personnes. C'est un virus entérique, le portage se fait au niveau digestif, et donc il peut se retrouver dans une partie plus ou moins grande de la population. Ce qui fait dire effectivement qu'aux États-Unis, il y a une personne qui a fait une poliomyélite paralysante et que c'est peut-être la partie émergée de l'iceberg et qu'il y a d'autres personnes qui sont porteuses du virus. Ça, on n'en sait rien, mais bon, de toute façon...
Donc vous n'avez aucune inquiétude, Stéphane Gaillet ?
Alors,
franchement, vous entendre non.
Pour la France, non, dans l'état actuel des choses. Mais
parce qu'il y a certains publics, quand même, s'ils contractent la polio, ça peut devenir très grave. Je pense notamment aux enfants, Stéphane Gaillet.
Les enfants, ce sont surtout les enfants qui font des formes paralysantes, des formes graves, en effet. Mais en France, en principe, tout le monde est protégé. On peut avoir, en revanche, des cas d'importation. Aux États-Unis, il semble que ce soit un cas importé. Il y avait eu également en 1989 un cas en Israël. Mais vous voyez, ce sont quand même des cas que l'on compte au compte-gouttes. Hein. Il n'y a pas d'épidémie aux États-Unis, il n'y en a pas en Israël, il n'y en a pas non plus en Grande-Bretagne. Mais je ne dis pas qu'il faut être insouciant vis-à-vis de cette maladie. Mais en France, c'est tout à fait rassurant. Il faut simplement accepter ce vaccin et moyennant quoi la population sera parfaitement protégée. Mais on a toujours la possibilité de cas importés. Et
voilà. Alors bien faire ces vaccins sur ces enfants et bien faire ces rappels chez les adultes, hein, Stéphane Gaillet, c'est bien
oui,
ça.
Oui, et puis faire de la pédagogie envers les personnes qui sont contre tous les vaccins. Parce qu'il y en a, il y a des courants.
Vous avez raison.
D'inspiration écologique.
Adressez-leur un message, tiens, Stéphane Gaillet.
Oui. Mon message est le suivant. Il y a énormément de vaccins aujourd'hui. Avec la COVID-19, c'était thérapie génique, ARN messager. Je comprends qu'on puisse avoir certaines réticences vis-à-vis de certains vaccins. Mais vis-à-vis du vaccin contre la polio, il n'y a aucune réticence à avoir. Aucune. comme vis-à-vis du vaccin contre le tétanos, contre la diphtérie. Ce sont des vaccins sûrs et efficaces. Donc, il ne faut pas globaliser les vaccins. Voilà, ça c'est une grosse erreur qui est faite. Tous les vaccins ne sont pas à mettre dans le même sac. Le vaccin contre la polio est tout à fait sûr et tout à fait efficace.
Voilà, la dernière épidémie de polio qui toucha en particulier les enfants. On peut même remonter à, entre 1900 et 1925 à travers l'Europe et les États-Unis.
Oui, c'est ça. Et puis, depuis les années 60, on a pris l'habitude, notamment en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, en Amérique du Nord, de vacciner tout le monde. C'est pourquoi la maladie a pratiquement disparu de ces continents.
Bon, bien merci de nous avoir rassurés, Stéphane Gaillet. Je rappelle que vous êtes...
Mais vaccinez-vous contre la polio. Voilà.
C'est bien noté, on aura bien entendu votre appel, merci.
C'est un vaccin indolore.
Merci, professeur. Restez avec nous sur Europe 1. On va parler de la canicule à l'épreuve du droit du travail. Tiens, vous me direz, qu'est-ce qu'il raconte? Vous allez voir, c'est très concret et ça nous concerne tous. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
De retour dans le studio d'Europe 1, la canicule telle que nous la vivons cet été va changer nos habitudes et pourquoi pas nos conditions de travail. Des syndicats européens appellent depuis le 25 juillet dernier à instaurer des températures maximales sur le lieu de travail, avec des épisodes de forte chaleur appelés à se répéter de plus en plus fréquemment. Cette proposition pourrait conduire à une refonte du code du travail. Pour en parler, nous sommes avec Maître David Guiouet. Vous êtes spécialisé en droit du travail au sein du cabinet M2G Voltaire, spécialisé en droit social. Bonsoir, maître.
Bonsoir.
Alors, la chaleur est-elle à ce jour prise en compte dans le code du travail français ?
Alors, elle l'est prise en compte, mais partiellement, au travers de dispositions un petit peu éparses dans le code du travail, qui concernent essentiellement les métiers de main-d'œuvre et en particulier le bâtiment et les travaux publics, qui font l'objet de mesures, un petit peu plus précises que pour les salariés qui ne travaillent pas dans ces secteurs.
Alors, quelles sont les obligations des employeurs ?
Alors, parmi les obligations des employeurs, elles sont déjà d'anticiper ces questions de manière climatique en mettant à jour le document unique d'évaluation des risques qui doit prévoir un certain nombre de dispositions, alors qui doivent être adaptées entreprise par entreprise pour traiter les problématiques de chaleur. Ensuite, vous avez un certain nombre d'obligations dans toutes les entreprises qui concernent la mise à disposition d'eau courante pour les collaborateurs. Vous avez aussi des obligations en termes de ventilation des locaux qui sont fermés. Et après, vous avez des obligations plus spécifiques dans le bâtiment de travaux publics, où là, les employeurs doivent mettre à disposition pour les salariés 3 litres d'eau par jour, et puis aussi un local qui n'est pas exposé au soleil pour que les collaborateurs puissent se reposer dès lors qu'ils travaillent à l'extérieur. En fait. Donc ça, ce sont les obligations qui figurent dans le code du travail. Par contre, contrairement à une idée reçue, il n'y a pas de température maximum.
Oui.
Donc, il y a des recommandations.
C'est pour ça qu'il y a cet appel des syndicats européens donc, à instaurer une température maximale, c'est-à-dire il fait tant de degrés dehors, je ne sais pas, je vais prendre un exemple, 35 degrés, on arrête de travailler, en tout cas dans certains secteurs. Je pense notamment à ceux qui travaillent dehors. Est-ce que c'est pertinent comme démarche, selon vous, du point de vue du droit ?
Alors, bon, déjà, aujourd'hui, ce qui existe, c'est des recommandations de l'INRS qui n'ont pas de valeur contraignante. Alors, ces recommandations, on peut les rappeler quand même, c'est 30 degrés pour les personnels sédentaires et 28 degrés pour les personnels à l'extérieur. Ensuite, est-ce que oui ou non, il convient de légiférer sur ce sujet-là ? À mon sens, c'est un petit peu sujet à débat, parce que entre ceux qui sont dans un bureau et ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui doivent faire un travail physique et ceux qui font un travail plutôt sédentaire, il y a quand même des réalités qui ne sont pas complètement les mêmes. Donc le problème de la loi, c'est que la loi, elle est uniforme. Donc, à mon sens, si demain on devait légiférer sur le sujet, je pense que le gouvernement renverrait sur cette question-là la balle aux partenaires sociaux. Dans le cadre de négociations ou d'obligations de négociation, interne à l'entreprise ou interne à la branche. Moi, je pense plutôt une négociation interne à la branche.
Négociation par branche, oui. Le BTP, typiquement, voilà.
Le BTP, mais le BTP, c'est celui qui connaît le mieux les problèmes de canicule.
Mais on a inventé, par exemple, dans le monde du BTP, le congé intempéries.
C'est ça. On a le congé intempéries qui peut être mobilisé en été comme en hiver, dès lors qu'on a des épisodes qui sont des épisodes soit de où il fait très froid.
Alors, est-ce qu'on peut également adapter la façon de travailler selon la chaleur ? Parce que vous parliez des travailleurs qui sont dans des bureaux. Est-ce que, par exemple, on peut généraliser le télétravail pour tout le monde en cas de canicule ?
Alors si l'employeur a envie de le faire, il peut le faire. Ça, je dirais, personne n'interdira à un employeur de
Alors, un agriculteur, il ne peut pas le faire. Voilà, ça dépend des secteurs, une fois encore.
C'est ça, un agriculteur ne peut pas le faire. Alors, le ministère du Travail, tous les ans, en fait, nous sort avec une belle régularité des recommandations qui sont dépourvues de valeur contraignante. Mais le ministère du Travail, dans le cadre de ces recommandations, incite les entreprises à mettre en place des mesures d'aménagement des postes, de la charge de travail, des horaires, notamment lorsqu'on est en vigilance orange et encore plus en vigilance rouge. Et en particulier en ce qui concerne notamment des salariés qui sont les salariés à risque, on pense en particulier aux femmes enceintes.
Alors, est-ce qu'on a tout simplement le droit de ne pas venir travailler pendant une canicule telle que nous la vivons actuellement aujourd'hui ?
Ça, c'est une question qui est une question un petit peu complexe parce que, alors, on va essayer de la décomposer ensemble. Oui et non, c'est-à-dire que, par principe, vous ne pouvez pas vous soustraire à l'autorité de l'entreprise en disant, bah non, aujourd'hui, j'ai chaud, j'ai froid, je ne peux pas venir travailler. Après.
Vous voyez, mais si l'employeur, je me retrouve au prud'homme face à mon employeur, l'employeur, je prouve qu'il faisait une chaleur écrasante ce jour-là. Vous voyez ?
Oui. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez faire valoir ce qu'on appelle votre droit de retrait. Mais en l'état actuel du droit, le droit de retrait, il faut démontrer que vous avez un risque de danger imminent pour votre santé. Mmh. Donc, le fait d'être un tout petit peu en sueur, c'est probablement pas de nature à caractériser ce danger. Donc, il faut véritablement démontrer qu'on est dans une situation complètement anormale.
Alors. Je voulais terminer avec une question beaucoup plus légère. Si on venait à intégrer le climat, la température dans le code du travail français, est-ce que j'aurais le droit de venir au travail en short, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ?
Alors, après, c'est vous pouvez avoir des très beaux shorts. Hein, donc on peut discuter sur le...
Du goût
sur,
et des couleurs, oui, tous les goûts sont dans la nature.
Le goût et couleurs. Alors, la Cour de cassation a rappelé, il y a de ça quelques années, que la liberté de se vestir n'était pas une liberté fondamentale. Donc, les entreprises sont fondées à imposer des obligations en termes vestimentaires. Après, il y a un principe de proportionnalité, c'est-à-dire que l'employeur ne peut pas imposer à quelqu'un de venir avec une doudoune quand il fait 32 degrés. Donc, le short, on va dire que si vous êtes sur un métier de représentation, la réponse c'est non. Si vous êtes dans un bureau et que vous êtes enfermé, la réponse c'est oui. Voilà, je pense qu'on peut voir les choses comme ça.
Bon. Vous pensez que ça sera intégré un jour dans le droit français ? Enfin, d'abord le droit européen, puis le droit français ?
Bah, moi, je pense que, compte tenu des épisodes climatiques qui sont de plus en plus compliqués à traiter, il n'est quand même pas exclu que le législateur impose aux branches professionnelles ou aux entreprises de négocier sur ce sujet-là. De toute façon, les situations, elles sont trop diverses pour qu'on ait une norme qui soit complètement uniforme. Entre les entreprises qui sont climatisées, celles qui ne le sont pas, celles pour lesquelles on est assis dans un bureau, celles pour lesquelles on est dehors, de toute façon, il y a 36 000 réalités qui sont difficiles à appréhender par le Code du travail. Donc, à mon sens, la bonne méthode, c'est de renvoyer aux partenaires sociaux le soin de définir, soit au niveau des branches, soit au niveau des entreprises, les différentes normes qu'on souhaite se fixer. Après, est-ce qu'il faut que le Code du travail légifère là-dessus ? J'avoue que je suis un tout petit peu plus dubitatif. Je pense qu'à mon sens, une obligation de négocier suffirait largement.
Oui, c'est ça, d'accord. Merci beaucoup, Maître David Guiouet. J'espère que je le prononce bien. Je rappelle que vous êtes avocat spécialisé en droit du travail au sein du cabinet MGG Voltaire, spécialisé en droit social. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1.
Merci.
Dans quelques instants, nous nous projetons sur le week-end de l'Assomption qui s'ouvre avec une tradition dans le sud-ouest de notre beau pays, la Feria de Béziers. Olivier Marget sera avec nous. Il est directeur des arènes de la cité bitéroise. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1, avant de nous quitter, nous voulions faire à tout prix un crochet par Béziers. Et oui, c'est le grand coup d'envoi de la feria du 15 août, ce jeudi. Nous sommes avec le directeur des arènes de Béziers, Olivier Margé. Bonsoir.
Bonjour.
Alors, tout à l'heure, il y aura le grand défilé de la Vierge suivi de la messe. Alors, c'est une tradition depuis 1968, la feria de Béziers, mais elle trouve ses sources bien avant, hein, dans l'histoire. Ça remonte à la fin du 19e siècle, si j'ai bien travaillé.
Oui, bien sûr, et à Béziers, on tient à maintenir toutes nos traditions, qu'elles soient croyantes ou moins croyantes. Voilà, dans le sud, on tient beaucoup à nos traditions et à les faire perdurer, donc on est très attaché à ce moment-là.
Alors, il y a une messe, c'est la volonté du maire de Béziers, Robert Ménard, depuis 2014.
Oui, c'est M. Ménard qui a instauré cette messe, qui a instauré d'autres choses sur Béziers, qui a fait beaucoup de bien à notre ville, grâce à qui on peut continuer à faire de belles férias, et je remercie encore M. le maire de nous appuyer dans ce sens-là sur le rugby, sur les taureaux, sur le vin, sur tout ce qui touche le sud. En fait, on est fortement appuyé par Monsieur le maire.
Alors, vous avez raison de parler de rugby, parce qu'en fait, la feria de Béziers, ça commence toujours par un match qui a été disputé hier soir entre Béziers et Agen, victoire de Béziers d'ailleurs.
Oui, on se réjouit parce que à Béziers, c'est quand même, c'est une grande ville, mais on se connaît tous. Donc c'est quasi le même milieu, et ceux qui vont au taureau vont après au rugby, ceux du rugby viennent au taureau et vont à la messe, voilà, tout ça c'est un lien, et on est tous liés, tous ensemble, par notre ville et nos hobbies voilà, qui nous correspondent.
Alors cette année, j'ai envie de dire que c'est le retour de la vraie feria, parce qu'après 2 ans de pandémie, vous allez être à jauge pleine. Je crois qu'il y a 1 million de personnes qui sont attendues dans le Biterrois ce week-end.
Oui, moi j'ai plus des jauges autour de 800 000 personnes, mais en tout cas on n'est pas loin. Donc comme quoi les férias attirent encore beaucoup de monde et font partie de l'économie du sud et notamment de la ville de Béziers. Il y a beaucoup de monde qui profite de la feria, et c'est un gros pourcentage de chiffre d'affaires pour beaucoup d'entre nous. Quoi.
Alors traditionnellement, vous voyez qui ? Des étrangers, des Français, des jeunes, des moins jeunes ?
Je vous dirais plutôt pas mal de Français. Mm-hmm. Et après, il y a tout âge, parce qu'il y en a pour tout le monde. Il y en a pour, des gens qui veulent aller voir des chevaux, des gens qui veulent aller bringuer, il y a des gens qui veulent aller voir à la messe. Voilà. Je pense que la feria de Béziers correspond à un panel important de la population française.
Alors, la feria de Béziers, c'est aussi un petit coin d'Espagne, en tout cas hispanisant, dans le sud-ouest de la France.
Oui, bien sûr, on est très proche de la frontière, on est à 1 heure de la frontière. Et d'ailleurs, il y a quelques Catalans et Espagnols qui viennent nous voir. En plus, il y a le TGV qui n'est pas loin non plus. L'autoroute A9, c'est très accessible. Donc, il y a pas mal d'Espagnols qui viennent quand même.
Oui, et puis il y a des bodegas qui sont installés. C'est ça, la feria de Béziers.
Exactement, c'est manger, boire, être festif. Et surtout, après 2 ans de pandémie, je pense qu'il va y avoir une jauge assez agréable et importante. D'ailleurs, nous-mêmes, contre les arènes, on a une bodega où on essaye de bien faire les choses avec des bons produits, tels que les miens en plus, avec du Black Angus bio de l'élevage directement. C'est pas une bodega, voilà, juste à faire des trucs, des produits frits ou autres. On essaye d'avoir des produits élaborés et faits maison en plus.
Alors les férias du Sud-Ouest, elles ont aussi la réputation de tourner parfois un peu à la beuverie. Y a un dispositif de sécurité important, j'imagine aussi, Olivier Margé.
Oui, bien sûr, parce que c'est avec 800 000 personnes reçues en 4 jours dans la ville, on peut s'attendre à tout et à n'importe quoi, et je pense qu'il faut, mais tout est prévu pour que ça se passe bien, et je veux pas qu'on dise que toutes les férias sont des beuveries. Oui, c'est des endroits où on boit et on mange, où il y a quelques débordements, mais ce n'est pas non plus des beuveries. Il y a des gens de tout part, il y a des avocats de Paris qui viennent, il y a des gens, voilà, qui travaillent au McDo, qui sont là pour bringuer tous ensemble. Il n'y a pas que des beuveries, il y a des gens qui savent aussi se tenir, notamment dans les bodegas privés où on a effectivement de la sécurité de partout, où les gens peuvent bringuer facilement sans qu'il se passe rien, quoi.
Ouais, et qu'on soit dans les férias ou n'importe où, il faut toujours boire avec modération, bien évidemment. Alors la feria de Béziers, c'est évidemment aussi, on l'a déjà dit plusieurs fois depuis le début de cet entretien, Olivier Margé, les taureaux. Les premières corridas vont avoir lieu bien dès demain. Et vous avez opté, une fois encore, comme depuis 10 ans, pour des corridas mixtes. C'est-à-dire qu'on met à la fois des rejoneadors et des toreros, c'est-à-dire de la corrida à cheval et de la corrida à pied, c'est bien ça ?
Oui, bien sûr, on fait des corridas mixtes pour que les gens qui n'ont pas trop envie d'aller au torero à pied peuvent aller voir les chevaux s'exprimer devant les taureaux. Et Léa Vicente qui fait ça merveilleusement bien. Et effectivement, on aura des jauges assez importantes, entre 7 et 8 000 personnes, ce qui est quand même conséquent. Et donc, voilà, il y a des entrées de corrida qui se portent bien, quoi.
Voilà, Léa Vicens, immense torera à cheval, immense star, évidemment. Vous avez d'autres grands noms prévus sur les différents cartels cette année. Andrés Rocarrey, le Péruvien, ou encore José María Manzanares, c'est bien ça ?
Oui, qui sont, voilà, Rocarrey est la vedette incontestée et incontestable de 2022, puisque voilà, un petit jeune qui arrive et qui... ça permet de repousser les autres taureurs un peu dans des terrains où ils ne vont pas d'habitude, donc à prendre plus de risques, à changer un peu leur tauromachie, et ce qui fait évoluer le spectacle. Donc oui, c'est une très bonne chose qu'un petit jeune vienne montrer à tous les autres un peu qu'il faut un peu mouiller le maillot pour remplir les arènes.
Et les arènes seront pleines encore cette année ?
Oui, bien sûr, je vous dis, on a des affluences sur le premier jour entre 7 et 8 000 personnes. Les autres jours, on sera entre 5 et 6 000, voire 7 000. Mais voilà, on va rester dans cette moyenne-là à peu près, ce qui est pas mal.
Alors, tout le monde n'est pas amateur de corrida, mais beaucoup de monde, on l'a dit, près de 800 000 personnes attendues à Béziers aujourd'hui. Il y aura des activités, des spectacles mêlant taureaux et amusement, les taureaux-piscines.
Effectivement, cette année, nous avons créé... plusieurs spectacles taurins et non taurins, puisque d'ailleurs on a organisé en coproduction les Nuits de Béziers, qui sont un festival avec des artistes connus comme Kenji, tout ça. Et ensuite, nous voulons ouvrir les arènes plus souvent, donc on a la volonté de créer, voilà, toutes sortes de spectacles. Et effectivement, les taureaux-piscines font partie de ces spectacles mineurs, mais qui sont très populaires, avec des entrées à 8 euros, et qui permettre aux touristes qui sont sur la côte méditerranéenne, un, de venir voir les belles arènes de Béziers, puisque le soir, c'est tranquille, elles ne sont que pour eux, et voir un spectacle populaire comme le taureau-piscine, avec des vachettes qui traversent la piscine et des jeunes qui viennent s'animer autour du taureau, ce qui crée toujours un petit peu d'affliction. Et effectivement, on a eu des entrées jusqu'à 1500 personnes, donc ce qui n'est pas négligeable.
Voilà, c'est un moment aussi familial, les férias de Béziers.
Oui, toutes les familles de Béziers et de touristes viennent avec leurs enfants passer une heure et demie, deux heures aux arènes, un soir d'été. Voilà, c'est très agréable, ça fait rigoler les gens, il y a un peu de musique. Des fois, on fait des tours en mousse avec de la mousse. Voilà, on essaye d'avoir un côté attractif.
Bon, alors pour finir, Olivier Margé, qu'est-ce que représente pour vous la feria de Béziers ? Quel est le symbole ?
Alors le symbole, c'est que c'est d'abord une tradition forte, et ensuite l'autre symbole pour moi le mot feria, c'est le taureau qui amène à la feria. La feria n'a jamais existé sans le taureau, et donc tant qu'il y a des taureaux, il y aura des ferias, et ce mouvement populaire qu'il y a autour du taureau. Donc je mettrai le taureau au centre de cette feria, et qui, par de son élevage naturel, tout ça, on est encore un cocon qui permet d'avoir des élevages extensifs dans des milliers d'hectares. Donc oui, je mettrai le taureau au centre de cette feria.
D'ailleurs, vous vouliez organiser avec les deux autres gestionnaires des arènes de Béziers, Simon Casas et Sébastien Castella, un entiero. Ça a encore été reporté ?
Oui, ça a encore
été
reporté.
Est-ce qu'on peut expliquer déjà à nos auditeurs ce que c'est qu'un entiero ?
Alors, un entiero, c'était à l'époque où il n'y avait pas de camions. Les éleveurs amenaient leurs taureaux dans les villages par la route. Et donc, il y avait des lâchers de taureaux. Donc, généralement, l'entiero, c'était plus sur le retour que sur l'aller. Mais voilà, il y avait des lâchers de taureaux dans les rues des villes qui étaient très populaires et qui est encore très populaire mais ça se fait actuellement que à Pampelune.
Voilà, pour la Sainte-Fermine.
Oui, pour la Sainte-Fermine. Et voilà, on a pour un jour de le faire à Béziers, mais ça demande beaucoup de préparatifs et tout plein de trucs autour qu'on n'a pas réussi encore à mener à bout. Voilà.
Des questions de sécurité, je suppose. Hein.
C'est, voilà, oui, il faut que voilà, plein de monde soit d'accord et qu'on arrive à monter ce projet au bout qui va amener voilà, beaucoup plus de personnes à Béziers, j'en suis sûr.
Dernière question avant de se quitter, Olivier Marget. Le maire de la ville, Robert Ménard, affiche ouvertement ses positions anti-corrida. Du moins, il dit qu'il n'aime pas ça, mais il l'autorise. Est-ce que vous appréciez cette position d'entre-deux ?
Oui, j'apprécie parce que c'est très clair. Monsieur Ménard nous regarde droit dans les yeux en nous disant que oui, il n'est certes pas aficionado depuis longue date, mais qui nous appuie parce qu'il voit que notre métier a du sens et qu'on le fait avec du cœur et qu'on aime nos bêtes. Donc, Monsieur Ménard nous appuie considérablement là-dessus.
Comme quoi des aficionados et des opposants au corrida peuvent se parler, peuvent s'écouter.
Oui, exactement, c'est ce qu'on fait. Et ça marche très bien, on peut ne pas être d'accord sur tout. Mais bon, mais sur le principe, on est quand même avant tout des éleveurs de taureaux, où moi j'ai grandi là-dedans, où j'aimerais que ma fille grandisse dans un élevage à monter à cheval au milieu de ces taureaux. Voilà, si cela un jour n'existe plus, voilà, on ne peut plus élever nos enfants dans nos campagnes parce que pour X et X raisons, maintenant, on n'a plus le droit de tuer des cochons à la ferme, d'avoir des bêtes en extensif. Tout ça, il va falloir qu'on le remette au goût du jour parce que c'est quand même un peu la base de notre côté français. Voilà, c'est quand même la campagne qui nous a appris à vivre, quoi.
Merci beaucoup Olivier Marget de nous avoir accordé ces quelques minutes. Je rappelle que vous êtes directeur des arènes de Béziers. Eh ben, je vous souhaite une bonne feria.
Merci beaucoup. Oui, ça va attaquer dans pas longtemps.
Allez, bonne feria à vous. Au revoir.
Merci, au revoir.
La feria de Béziers, c'est jusqu'à lundi 15 août. C'est ainsi que se referme cette nouvelle édition d'Europe Soir. Vous avez rendez-vous avec Stéphanie Loire ce soir, comme tous les jours de la semaine cet été. Musique. Alors je vais vous donner un avant-goût avec un petit morceau que nous allons écouter maintenant. Les Beach Boys, ça ne nous rajeunit pas. Voici Kokomo, c'est le choix de notre réalisateur que je remercie, Christophe Pierrot. Kokomo des Beach Boys. À demain pour Europe Midi sur Europe 1.